Comme probablement vous avez tous des enfants, vous avez tous eu votre pédiatre qui vous a dit où était votre enfant sur les courbes de Jacques-Santil. Ça veut dire qu'en fait, la nuit et les courbes de Jacques-Santil peuvent aussi être représentées comme ça, avec une grande partie des enfants qui sont à peu près dans une taille moyenne et puis après les extrêmes de chaque côté. Et puis, le besoin de sommeil peut aussi être représenté exactement de la même manière que les courbes de Jacques-Santil de votre pédiatre. Ça veut dire comme ça. Et je vous montre ça en guise d'introduction, je vais revenir à ça assez souvent. Ça, c'est l'âge d'abord en noir, puis après en année. Parce que vous montrez toujours votre pédiatre en disant, voilà, il a bien grandi, là, il était à un mois, là, il a deux, là, il a deux mois, etc. Ici, c'est le besoin de sommeil en heure. Il s'agit d'enfants tout à fait sains qui vont bien, qui n'ont aucun problème, ni de santé, ni de sommeil. Et ça, c'est le lien entre les années qui passent. Et on voit ici les heures, le besoin de sommeil en heure, et on voit ça diminue progressivement avec le temps. Et puis on voit que le gros paquet est là au milieu, ça serait le milieu aussi en représentant en tout cas, ça serait un gros paquet. Et puis après, il y a des extrêmes qui s'éclochent dans les grands neurones. Et dans notre population, c'est exactement comme dans cette population-là, qui est une population suisse de Zurich des années 80. Petite introduction encore, Anne, elle est venue me voir il y a quelques années. Elle a toujours bien dormi. Jamais de problème. Et puis, depuis 6 mois environ, elle s'est toujours couchée autour de 9h. Depuis plusieurs années, elle se couche à 9h. Et puis, depuis un peu plus de 6 mois, elle n'arrive plus à s'endormir. Elle est anxieuse le soir, elle n'arrive plus à s'endormir. Elle se couche tout, elle n'est pas très bien, mais elle se couche un peu plus tard parce qu'elle se couchait. Donc, avant, c'était 9h, puis là, c'était plutôt 9h, 9h30. Et puis, ce que vous voyez peut-être pas bien, parce que c'est trop clair, ça c'est elle qui m'a rendu, c'est pas ce que je fais rendu maintenant, c'est elle qui m'a rendu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a régulièrement une heure et demie, où en fait, elle est couchée dans son lit, puis elle se tourne, et elle n'arrive pas à se baisser. Et elle est venue plus loin, et là, qu'est-ce qui se passe? On va voir ce qui se passe chez elle. Je viens cette fois vraiment au plan, donc je vais vous donner, pour commencer, quand on parle de sommeil, je suis obligée de vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on dort. Avant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on dort pas, il faut savoir qu'est-ce qui fait qu'on dort. Ben, c'est assez mystérieux. Personne d'entre vous, si je vous demande comment est-ce que vous faites pour dormir, en fait, vous n'avez aucune idée. Enfin, moi, j'ai aucune idée. Il n'y a pas un truc, je veux dire, j'éteins, je... Mais on dort à la nuit, en fait. Il y a quelques éléments pour expliquer pourquoi on dort. Après, je vais essayer de... illustrer quels sont les changements entre l'enfance et l'adolescence, c'est pourquoi il y a beaucoup de situations communes, tout d'un coup ça devient plus compliqué, des choses qui étaient assez faciles. Je vais aussi parler un petit peu des changements, des autres changements de l'adolescence, qui c'est un des thèmes ici, et qui ont évidemment une conséquence sur le sommeil, la conséquence que ça a sur l'école et sur les résultats scolaires. Et puis je vais vous parler un peu de ce que moi je fais, mais qui sont en partie des choses que vraiment les parents peuvent mettre en place à la maison aussi en partie vraiment sans aide. Alors, la dernière conférence que j'ai donnée, c'était au Vietnam. Et ça, c'est la traduction vietnamienne. Et chaque slide que j'avais était en anglais. Une traduction vietnamienne. Je parlais en anglais, j'attendais, la traductrice parlait en vietnamien. Et quand au début je me suis dit, mais oh, ça va être terrible, ça va être hyper long, les gens vont s'ennuyer. Et ça, c'était tellement bien parce que ça a ralenti mon rythme. Donc j'ai parlé moins vite et j'ai eu le temps de savoir s'il y avait des questions. Donc, je me suis juste mis cette slide pour vous rappeler de parler moins vite. Et vous arrivez vraiment à m'interrompre et à poser des questions si je m'emballe un peu mal. Parce que je n'ai pas de traductrice de ça. Donc, quelques généralités sur le sommeil. Pour pouvoir s'endormir rapidement et passer une nuit sans se réveiller, ça dépend en fait de deux systèmes qui s'appellent le rythme circadien. Circadien, ça veut dire à peu près 24 heures. à peu près le temps d'un jour. Et le médecin du sommeil, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est le rythme circadien. On a découvert ce que c'est le rythme, on a étudié ce que c'est le rythme circadien dans des situations très particulières, des situations de laboratoire, de prison, de choses comme ça. On s'est rendu compte, quand on laisse des gens sans aucun donneur de temps c'est drôle, dans toute la littérature des gens anglais, le donneur de temps est aujourd'hui en allemand, c'est sale à l'époque. Donc, les donneurs de temps, on pourrait le dire, voilà, on l'offre. C'est aussi un élément fort, mais les donneurs de temps, ils sont, en fait, c'est des éléments extérieurs, on a la lumière, on a la lumière, le soleil, le ciel, etc. Si on laisse les gens sans aucun donneur de temps, ils ont un rythme d'à peu près 24 heures, spontanément. Et c'est ce qu'on appelle le rythme circadien endogène, parce qu'il vient de l'intérieur du corps. Il vient d'un endroit dans le cerveau qui génère un rythme. Et ce rythme d'à peu près, souvent il est un peu plus long, mais c'est assez individuel. Chez les gens, il va un peu plus court, d'autres un peu plus long. Ce rythme, il va changer beaucoup de choses. Il va changer la température du corps. Le soir, la température du corps baisse progressivement jusqu'au milieu de la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait spontanément. C'est le cerveau qui génère ça. Le rythme cardiaque, il est spontanément. Les gens qui ont fait des gardes, on sait que quand on regarde, il y a 3 heures du matin, parce qu'on a une garde, on a hyper froid. Et ça, c'est voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où le rythme, notre rythme circadien, à baisser la température. Et c'est totalement en évoluant de l'extérieur. Et puis après, ce rythme, heureusement, il se calque sur la vie extérieure. Et ce calquage de la vie extérieure, ça s'appelle, donc, il y a un rythme exogène qui vient de l'extérieur, et ce calquage vient essentiellement de la lumière. Donc, un des messages les plus forts à notre cerveau pour nous dire que c'est le jour, c'est la lumière. Il y a évidemment d'autres choses, il y a les repas, la digestion, il y a des facteurs sociaux, on discute, et ça nous tient à veiller, on est intéressé, ça nous tient à veiller, etc. Mais ça, c'est des, et ça, ça fait ces deux rythmes. Donc, le petit bébé qui naît, il a un rythme, tout début, il n'a pas de rythme circadien, mais petit à petit, il a un rythme endogène qui doit être calqué par la société sur le rythme. Pourquoi c'est si heureusement qu'on n'a pas que un rythme endogène qui tourne tout seul, mais qu'on a la possibilité de calquer sur l'extérieur? Heureusement, en tout cas, qu'est-ce qu'on ferait dans les situations de jet lag, hein, sur le voyage? Heureusement, on est capable de voyager et que notre rythme endogène, petit à petit, alors on n'est pas quitté pendant un certain temps, mais petit à petit, grâce à ces donneurs de temps extérieurs, en particulier la lumière, ce rythme endogène peut changer et se calquer sur le rythme extérieur. Et ce rythme, qu'on appelle maintenant circadien, qui est en fait une association du rythme endogène et exogène, va être le rythme qui va contrôler les sécrétions hormonales, la température, etc. Et la fameuse mélatonine, dont on a certainement déjà entendu parler. C'est une chose. L'autre chose, l'hormone de croissance. On dit toujours que les enfants, ils grandissent la nuit. En fait, voilà, parce que l'hormone de croissance a en effet un rythme circadien. Alors, les petits dormeurs, ils sont tout aussi bien que les autres, mais ça c'est une légende. J'ai régulièrement des parents qui me disent « Ah, mais il dort pas beaucoup, est-ce qu'il va grandir ?» Oui, mais disons, l'association hormone de croissance et sommeil, elle vient du fait que l'hormone de croissance a un enfer, un rythme circadien, et il y en a plus. Ça c'est juste une illustration, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre parce que c'est très important. Donc ça c'est juste une illustration dans le cerveau pour vous montrer à quel point ça passe vraiment par les yeux et ce message de lumière est transmis aux différentes cellules, aux différentes parties du cerveau qui vont, où il y aura après la sécrétion de mélatonine qui va réguler les autres sécrétions. C'est vraiment très la lumière peut influencer ce rythme, comme je l'ai dit, et puis par exemple, si on a beaucoup de lumière le soir tard, on va un peu retarder notre rythme circadien. Si on a beaucoup de lumière tôt le matin, on va un petit peu avancer ce rythme. C'est comme ça qu'on peut jouer sur le rythme circadien avec la lumière, typiquement dans les situations de jet lag, où si on reste réveillé et puis on continue, on va aller voir des bons amis, on est au salon, il y a de la lumière, il y a à manger, puis les conversations intéressantes. On arrive, si on fait ça plusieurs soirs de suite, à c'est quelle lumière qui dit à notre cerveau que c'est le jour? Et ça, c'est bien intéressant. En fait, la lumière qui dit que c'est le jour, c'est la lumière bleue essentiellement. Et la lumière bleue, c'est la lumière qui qui a sur les iPhone, iPad et autres portables et écrans. Et c'est vraiment cette lumière-là, elle est LED. C'est vraiment la lumière qui donne le message au cerveau cellulaire. Suite à ça, il y a des industriels malins qui ont développé des lunettes pour bloquer la lumière bleue, donc on peut continuer à regarder notre iPad, iPod jusqu'à tard dans la nuit sans avoir de message de jour. On reviendra là-dessus. L'autre, j'ai parlé de rythme circadien, ça c'est une des raisons pour laquelle on dort la nuit, parce que c'est notre corps nous dit que c'est la nuit. Et l'autre raison, c'est l'homéostase du sommeil, et ça c'est hyper important, c'est juste plus on est réveillé, plus on est fatigué. Et ça c'est autre chose à refaire. Reparler de notre métier de médecin, heureusement que ça existe, ça. Parce que ça veut dire que nous qui avons fait des gardes, donc encore moi quand j'étais plus jeune, je faisais des gardes de 24 heures, donc le soir arrivait, mon rythme circadien, mon cerveau me disait « Oh, je suis fatiguée, je commence à avoir froid, c'est l'heure d'aller dormir, mais je vais continuer à travailler, je vais continuer à être réveillée. » Le lendemain matin, je n'avais toujours pas dormi, mon cerveau me disait « C'est le jour, c'est la lumière, c'est le moment d'être réveillée. » Mais grâce au fait que j'étais tellement fatiguée parce que je n'avais pas dormi 24 heures, j'arrivais à me coucher. Donc c'est ce qui fait l'homéostase du sommeil, c'est l'autre mécanisme qui fait qu'en fait on peut dormir, et pour dormir il faut être réveillé depuis un moment. C'est vraiment ça. Et plus on est réveillé, plus on dort profondément. Ça veut dire, après si on regarde dans la qualité de sommeil, léger, etc., plus on a été réveillé longtemps, plus on a de sommeil profond. On ne récupère pas tellement le sommeil REM, hein, le sommeil des rêves, ça se récupère pas. Par contre le sommeil profond, ça se récupère. Donc quand on était en dette de sommeil, après on dort, on a plus. Ces deux mécanismes dansent ensemble pour faire qu'on dort la nuit. Que les enfants dorment la nuit, mais que les ados dorment la nuit, mais que la plupart des gens dorment la nuit, et je vais vous expliquer comment ces deux mécanismes dorment ensemble. Donc ça, c'est le rythme circadien qui nous dit c'est le jour, c'est la nuit, c'est le jour. Hein? Donc, c'est vraiment une vague, comme ça, c'est différent. J'avais entendu il y a quinzaine d'années une émission à la radio où un journaliste disait c'est dommage, là vous êtes tous dans les bouchons. Ah, c'était 5h du soir, alors c'est le moment où votre cerveau vous donne le plus grand signal de jour et que vous êtes le plus réveillé. Je me souviens, j'étais dans la voiture et je ne sais pas, bon, pourtant c'est pas à ce moment-là où je me sens le plus réveillé. Il avait pas tort, ce journaliste, je ne sais plus qui disait ça, c'est effectivement quand on regarde quand est-ce que le rythme circadien nous donne le plus grand message de jour, c'est en fin d'après-midi et pas le matin. Ça commence le matin, mais le plus grand signal de jour, en fait, le moment où la mélatonine est la plus basse, c'est tout en fin d'après-midi. Pourquoi c'est si important? Parce que ça vient contrecarrer l'homéostase du sommeil, qui, ça fait un moment qu'on est réveillé, puis on commence à être fatigué. Donc, si les deux étaient totalement calqués l'un avec l'autre, on s'écroulerait tout simplement en fin de journée, les deux mécanismes nous disant maintenant il faut dormir, maintenant il faut dormir. Mais ils sont un petit peu décalés, c'est-à-dire que le rythme circadien nous donne tout à petit un signal de veille, mais dans le stade du sommeil, quand tu vas bien dormir toute une nuit, il y a des années qui vont suffire, vous n'êtes pas assez dormi à 7 heures, alors que le rythme circadien, la mélatonine n'en dort pas simplement haut, la mélatonine baisse et les autres mécanismes d'éveil s'installent pendant que la fatigue s'installe, et ces deux mécanismes sont ensemble pour qu'on arrive à se réveiller la journée, petit à petit, être plus en plus fatigué le soir jusqu'à 6 heures. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Moi j'aurais une question.
Alors, ce qui est particulier avec les écrans et les iPods, etc., c'est la lumière directe dans les yeux. Alors que souvent, les bébés, c'est une petite lumière loin, mais quand même une lumière très indirecte. Donc, c'est quand même nettement moins, et puis c'est nettement moins. Alors que vraiment, le problème des écrans, c'est qu'on a juste dans les yeux, et qu'il y a une lumière pas dans les yeux, qu'on la regarde. C'est ça que ça sert les écrans, c'est qu'on regarde en fait. Donc il y a vraiment directement ce mécanisme de lumière dans les yeux. La petite lumière tamisée, peu importe la couleur, la vitesse, ne joue pas ce même rôle. Il y a autre chose, je continue. qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Maintenant, on va venir là. Parce que ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment quelque chose qui vaut pour tout le monde, pour tous les enfants. C'est quelque chose qui se met en place les 6 premiers mois de vie. Donc, 6 mois, c'est fait, c'est réglé. Tous les enfants, ils ont un rythme circadien, ils ont leur homéostase du sommeil, qui, évidemment, chez les petits, ils ont encore besoin de ces petits moments de sieste dans la journée, mais les mécanismes sont en place. Pas avant 6 mois. Des fois, quand je raconte ça, les mamans, elles me disent « Ouais, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, si il est réveillé toute la journée, après, il est tout du bloc, c'est un peu si pour lui dormir. » Mais c'est vrai que chez les moins d'enfants de moins de 6 mois, on ne peut pas le tenir réveillé pour qu'il dorme mieux après. Après, mais on peut. Mais pas avant 6 mois. Donc, on peut, tout en respectant les siestes. Qu'est-ce qui se passe de particulier à l'adolescence? J'aime bien cette vie, je pense que vous savez évidemment tout ça. Hein. Ça, c'est, moi, j'ai des enfants qui sont par là. Ça veut dire ça, c'est le nombre de secrets intimes que les enfants disent à leurs parents ou à leurs copains. Ici, et ça, c'est les années scolaires. Et là, c'est les parents. Ah, la chute aluciale. Heureusement, on profite des copains. Et puis, donc ça, c'est vraiment évidemment, tout le monde le sait, hyper important. À quel point les pères, là, ils prennent un rôle mais absolument, absolument essentiel. Sur le sommeil, ça, c'est à peu près la même chose. Ici, c'est un graphe, c'est aussi une étude, c'est à quel point l'influence des parents sur l'heure du coucher de leurs enfants avec les années, 11 ans, 13 ans, 15 ans, avec ici des parents qui ne disent plus à leurs enfants d'aller se coucher, on va en parler. De qu'est-ce que ça veut dire, si c'est bien, pas bien, mais évidemment, on peut imaginer, quand on voit la phrase d'avant, c'est qu'aussi les enfants, peut-être les parents essayent de dire, mais c'est pas bien. Par contre, l'influence des parents sur le lever, malheureusement, votre tâche n'est pas finie. Influence des mères, loisirs nocturnes, écran, caféine, eau de boisson. Puis là, j'ai besoin de raconter une anecdote parce qu'elle est quand même assez intéressante. J'ai des amis boutanais, on partage une connaissance ou un lien avec le Bhoutan, avec le certainement. Donc, j'ai des amis boutanais qui sont venus nous voir cet été. Et puis, au Bhoutan, c'est un pays dans l'Himalaya, c'est juste au-dessus de l'Inde, comme tous les pays comme ça, assez proche des tropiques. 6 heures du soir, il fait nuit, tous les soirs, toute la nuit. Puis lui, il est venu nous voir, et puis c'était en plein été, au mois de juin, juillet. Puis le premier soir, il dit, mais là, c'est quand que le soleil se couche? Il dit, non, plus tard, c'est voilà. Puis à 10 heures du soir, il me dit, mais ils font comment chez vous les ados? Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais pour s'embrasser. Il n'est pas qu'il fait toujours jour. Il va toujours. Et j'ai dit, bah, chez nous, ils ne se couchent plus tard. Comme ça, ils peuvent quand même s'embrasser sans que les adultes viennent. Mais c'est une anecdote juste pour dire que ça a vraiment, vraiment une raison d'être, ce décalage. Et que c'est grâce à ce décalage que les ados peuvent avoir leur vie entre eux, que les ados sont vraiment épuisés. Et n'arrivent pas à suivre. Évidemment, il y a des raisons maintenant qui ne sont pas du tout biologiques. La structure même du sommeil à l'adolescence change. Et surtout, mais pas beaucoup, et surtout ce qui change, c'est l'horreur. Et puis, le moineau, la couche d'eau, je ne suis pas sûre que c'est un moineau d'eau, mais le couche d'eau, l'aide d'eau surtout, hein, c'est des petits oiseaux qui défilent dans le jardin, quand, au réveil, ils deviennent des chouettes. Je ne jamais très sûre. Et on va revenir un peu ce qui se passe de ces deux mécanismes dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence et pourquoi le couche d'eau, certains étaient des couches pratiquement tous deviennent des pour pouvoir se décoter d'un point. Comme le soleil se couche si tard. Et ça, c'est une étude, je vais vous la expliquer. L'espace de Fanner, c'est comment nous, les médecins, on décrit les ados. Et puis, je vous ai fait une petite illustration, c'est pas si intéressant que ça, mais ce qui est quand même intéressant, et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est juste les différents stades, les organes génitaux, les seins, etc. Et comment on décrit un, c'est très divers, c'est bien, parce que alors, petit à petit, ils deviennent de plus en plus adultes dans les signes extérieurs de puberté. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que ce qui est important à l'adolescence, ce n'est pas leur âge, c'est leur développement. La puberté, elle ne vient pas à 14 ans. Elle vient quand on commence à faire des testicules du rendez-vous, hein, je veux dire, elle vient là, voilà, ou à 12, ou à 15, ou à peu importe, c'est vraiment lié au développement pubertaire et puis au développement. C'est pour ça que les études, quand on parle de l'âge, ça a souvent peu d'intérêt, il faut vraiment voir où est l'enfant, il en est dans son développement. C'est pour ça que les études qui parlent de ça, de jeunesse, sont nettement plus intéressantes, parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas regarder selon leur âge, mais selon leur développement. Et puis ici, je vais vous montrer quelque chose qui... Et là, des fois, je me dis, faut que je monte ça aux crèches. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le latence de sommeil. C'est le temps qu'il faut pour un enfant mis dans le noir, dans le silence, pour s'endormir. Et ça, c'est le, à 11h, à 13h, à 15h, à 17h, à 19h, à 21h, à 23h, à 1h, à 1h, à 1h. Donc, on a mis ces enfants dans le noir, hyper calme, et on a compris combien de temps ils mettent pour s'endormir. Puis en fait, ils mettent tous à peu près dans 10 minutes, même à 11h du matin. Je dis, ils vont rentrer sur le crèche, parce que crèche, elle dit, souvent, on l'a couché, il a fini par s'endormir, c'est qu'il en avait besoin. Peu importe si on en a besoin ou pas, la plupart du temps, si on vous met assez longtemps dans le noir, dans le silence, on finit par s'endormir. Alors, peut-être pas longtemps, hein. Donc ça, c'est la latence de sommeil. Mais il faut une vingtaine de minutes, en fait, pour quelqu'un pour s'endormir, s'il est mis dans le noir, dans cette situation où tout va bien, les études, etc. Qu'est-ce qu'on voit, ça c'est le pré-adolescent, c'est qu'à 21h, cette durée du temps qu'ils mettent à s'endormir, à 21h, ça chute drastiquement, et à 22h, il n'y a plus que 8 minutes pour s'endormir. Donc là, ils sont vraiment fatigués, bouf, ils s'endorment tout de suite. Les tanières 5, donc les ados bien ados, hein, là, ils sont vraiment déjà bien ados, il faut attendre 1h du matin pour qu'ils s'endorment aussi vite. Ils sont pas en dette de sommeil, c'est des ados qui vont très bien. Donc eux, à ce 22h, ils mettent tout le temps encore 20 minutes comme à 11h du matin. Et ça, c'est tout à fait normal. Ici, c'est une autre illustration qui est à peu près la même chose, je ne vais pas aller dans les détails, mais ça montre, ça c'est la pression de sommeil, c'est à peu près pareil. C'est le temps, c'est la fatigue qu'on ressent, c'est le temps qu'on met à s'endormir. Ici, on voit les préadolescents qui sont très fatigués après une journée de sommeil, ouf, ils s'endorment, hop, ils viennent très vite très fatigués, et les adolescents, eux, se fatiguent, ça se tient dans la courbe de fatigue beaucoup moins vite. Ils sont tout simplement moins fatigués. Après, ils ont des petits coups de barre dans la journée. Là, ils ont plus des petits comme des petits bébés hein, qui ont des rentrées une petite pièce. Donc, comme ça, ils sentent souvent un peu plus leur petite, c'est ce que nous on appelle les rythmes ultra bien. C'est vos petits rythmes à l'intérieur de ce grand rythme de 24 heures. On a tous ça, hein, des petits moments, un petit coup de barre. Et souvent, les anneaux, ils sentent ça très fort. Mais en fait, sur la journée, c'est ce fatigue. Donc, si je viens à l'homéostase du sommeil, la puberté, les adolescents fatiguent moins vite que les préadolescents durant la journée, et sont moins fatigués que le soir, et peuvent fatiguer. Ça, c'est vraiment l'homéostase du sommeil, c'est un mécanisme qui est comme ça. Le rythme circadien, donc le deuxième mécanisme qu'on a parlé, ici, on voit la durée du rythme endogène. Je vous ai dit, hein, quand on laisse quelqu'un tout simplement sans que personne lui dise quelle heure il est, c'est l'heure de manger, etc., quel est le rythme auquel son organisme, son cerveau s'organise hein. Donc on le laisse et puis on lui demande la nourriture quand il veut, etc. Puis on se rend compte qu'en fait, tout le monde le fait de façon cyclique sur 24 heures, mais plus ou moins 24 heures, c'est tout de même. Ça c'est l'astuce des adultes. Et ça, il y a pas mal de gens qui disent la fin de l'adolescence, c'est qu'on a besoin de se coucher pour le trop. Donc les adultes, ils ont un rythme à peu près, ça c'est 24 heures, un peu plus que 24 heures, mais il y en a pas mal qui ont un rythme qui est un peu moins que 24 heures. D'adultes, sains, normaux, si on les laisse sans donner un temps. Les ados, ils ont tendanciellement un rythme de plus que 24 heures. Donc une tendance à se décaler toujours un peu vers le plus tard, vu que leur cerveau, en fait, spontanément, ils ont un rythme de un peu plus que 24 heures. J'ai beaucoup d'ados, il y a aussi ce genre de 24 heures. Mais si on regarde ici, Alors, 24 plus 7, ouais, mais c'est presque un facteur, hein, mais sur un jour, le jour d'après, si on les laisse aller tout seul, enfin, mais après, c'est à 6h du matin, ou 6h toute la journée, si on les laisse, si on les laisse aller. Il y a une autre chose qui est un peu. Qui joue des tours, donc c'est pas si facile, mais comme je vous dis, ça a peut-être du sens pour qu'ils puissent se développer dans la nuit. C'est l'influence de la lumière sur la mélatonine. Donc la mélatonine comme hormone, on va se souvenir peu de celle-là parce que c'est une des plus importantes, comme hormone qui dit au corps, voilà, qui baisse la température, qui baisse le rythme cardiaque. Donc ce qu'on sait habituellement, c'est que si on a de la lumière dans les yeux le soir, la mélatonine a tendance à retarder sa montée, puis si on a de la lumière le matin, voilà, tendance à chuter plus vite, on peut dire que c'est le jour. Ce qui est particulier chez les adolescents, c'est que la sensibilité à la mélatonine, à la lumière le soir, est augmentée. Ça veut dire que si ils ont la mélatonine, de la lumière dans les yeux, ça va durablement empêcher leur mélatonine de monter, alors que si on leur met de la lumière le matin, ça ne va pas faire chuter leur mélatonine. C'est vraiment biologique, les pauvres, ils disent, voilà. Donc, l'état d'air 1, donc ça c'est très adolescent, eux, par contre, on a beau leur mettre de la lumière le soir, eux, ils s'endorment. Par contre, hop, la lumière s'allume le matin, pouf, ils sont réveillés. Et les adolescents, c'est vraiment l'inverse, et c'est vraiment biologique, on a vraiment étudié quelle est l'influence des rayons lumineux sur leur sécrétion de mélatonine. Et ça a été très convaincant ce soir. Je suis en train de dire les ados, les enfants, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, hein. Chaque enfant est différent, chaque ado est différent. Je vous dis comme ça les grandes généralités juste pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc le rythme circadien et la puberté, donc je dis puberté et pas l'âge, hein. Donc il y a un allongement du rythme circadien en jeune, hein, ils ont tendance un peu à si on les laisse aller libre, go wild, ils allongent leur journée et qu'ils se couchent de plus en plus tard. Ils ont une meilleure résistance au signal de la mélatonine, donc ils se fatiguent moins avec le signal de la mélatonine, et ils ont une sensibilité augmentée à la lumière le soir. Donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent pour que ce soit la fête. Et le soir, du coup, ils ne sont pas fatigués du tout, et puis ils peuvent avoir peut-être tout ce qu'ils doivent faire le soir, alors que les adultes et les enfants dorment. Et c'est vraiment possible grâce à ces régulations biologiques du sommeil. Les conséquences, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'ils se couchent de plus en plus tard. Ça, c'est le week-end. Donc, ça, c'est l'heure du coucher. Ça, c'est l'âge. Ils bouffent. Ça va de plus en plus tard. Ça, c'est le week-end. Heureusement, ce qui va avec, c'est l'heure du lever. C'est de plus en plus tard. Je dis heureusement pour eux, pour pas qu'ils soient totalement épuisés. Évidemment, le problème, ça, c'est l'heure du lever week-end. Alors ça, c'est une grâce à sa dernière étude américaine. Et ce qu'on voit, c'est terrible. C'est que c'est l'heure du lever de la semaine. Et là, vous pouvez dire à vos ados, franchement, vous avez de la chance. Alors, je ne sais pas comment c'est au lever, mais les ados, souvent, ils se lèvent bien avant 7 heures. Alors, je ne sais pas comment c'est au lever, mais c'est vrai qu'à Genève, comme c'est assez petit, les ados vont souvent au collège tout près. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se lever avant 7 heures. À l'école. Aux États-Unis, vraiment, il y a des licences qui sont plus grandes, mais on voit beaucoup de 14-15 ans, ils se lèvent avant 7 heures, bien avant 7 heures. L'heure du coucher de la semaine est aussi de plus en plus tardive. Est-ce que c'est comme ça partout? Alors ça, c'est une slide qui est terrible. Alors moi, je la connais. Je ne connais pas bien. Mais il y a un pays, là, Taïwan, que je n'aimerais pas, que je conseille pas aux ados. Ça, c'est l'heure du coucher le week-end et l'heure du coucher la semaine. Taïwan, Brésil, États-Unis, Italie, France. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils se couchent beaucoup plus tard le week-end et la semaine. Alors, sauf à Taïwan, je pense qu'ils dorment aussi. Et puis, je trouve qu'il y a des autres soucis. Donc là, très mais autrement c'est vraiment un schéma complet partout avec des heures de lever le week-end. Du coup avant c'était couché, maintenant c'est lever, c'est beaucoup plus tard le week-end que le couchement. Donc vous n'êtes pas les seuls à avoir des ados à la maison qui se couchent tard, qui se lèvent tard, c'est partout pareil. Depuis toujours, dans toutes les espèces, c'est une question que je me suis posée. Il y a des écrits de 1913. J'ai ça, c'est dans les années 1913, mais pas partout, mais vraiment pas du tout partout. Je ne sais pas. En tout cas, il y a les mêmes observations sur le décalage de phase des ados. Donc, indépendamment des écrans, de la lumière, etc., les ados, déjà en 1913, c'était écrit, c'était pareil. Il y a le même phénomène chez les animaux. Qui, à la puberté, décalent leur quelle est la conséquence de ça? Est-ce que ces ados sont en déficit de sommeil? Puis là, il y a pas mal de controverses, en fait, sur la question. Est-ce qu'ils sont vraiment en déficit de sommeil? Les Américains disent oui. Les Américains disent les ados ne dorment pas assez. Et ça c'est... Là, ils disent... Je ne fais pas dans les détails, mais pour résumer, ils disent que oui, ils devraient théoriquement dormir la même chose que le préfet. Seul, indépendamment du stade de ta mère, ça pourrait venir un tout petit peu, mais ils devraient dormir pareil. Mais l'étude, la grande étude, si c'est la seule que je connaisse, qui a vraiment regardé combien effectivement les ados dormaient et est-ce qu'ils avaient des plaintes associées, de façon vraiment... C'est une mort qui a été suivie depuis la naissance, et après leurs enfants ont été suivis, c'est très très joli dans leur mémoire. Et eux, mais ce qu'on voit ici dans cette cohorte, c'est qu'effectivement le développement de sommeil diminue. Vraiment. Et ça paraît cohérent avec notre expérience d'adulte, c'est-à-dire que quand on est enfant, on dort moins que nos enfants. Donc il y a bien un moment donné où ce développement de sommeil a diminué sans être totalement diminué. Mais quand même, dans des grands recensements, ça vient du CHUV de Lausanne, où ils ont fait un grand recensement, et vous avez quand même beaucoup d'ados sur pleine d'être fatigués. Alors après, la grande question, c'est ils sont fatigués où et quand? Est-ce qu'ils sont fatigués à la maison, le dimanche, sur le canapé, ou avec leurs copains le soir? Parce que là, c'est vraiment très différent. C'est clair que s'ils sont fatigués aussi avec leurs copains le soir, quand ils sortent, là, c'est grave. Le dimanche, sur le canapé. Mais c'est vrai que si vraiment on est en déficit de sommeil, ça a des conséquences vraiment plus agréable, on est fatigué, déjà rien que ça. Notre attention est nettement diminuée, les résultats scolaires sont diminués, on a des autres douleurs, dépression, comportement à risque, tout a été démontré. Et même des obésités, des problèmes de diabète, les risques de diabète sont augmentés en cas de déficit de sommeil. Les accidents, il y a plus d'accidents. Il y a une étude toute récente qui a montré, ça c'est en Norvège, et ça s'appelle vraiment. C'est pas grave. En fait, c'est les notes scolaires avec la durée de sommeil. Et puis en gros, plus ils dorment, meilleures sont leurs notes chez ces enfants-là. Et puis, ça, c'est plus tard, ils se couchent moins bon sur leurs notes. C'est ça qui est très difficile dans cette cas-là. Je prends pas ça avec précaution parce que vraiment, c'est une cohorte particulière. Norvégienne, je dis ça parce que dans l'étude zurichoise, la seule corrélation qu'ils ont trouvée, c'est-à-dire le seul lien qu'ils ont trouvé, parce qu'ils connaissaient tous ces enfants, ils ont vraiment fait un QI toutes les années, ils ont gardé leur taille, c'est bien, c'est là où viennent nos cours de croissance anciennement, mais nos cours de croissance suisse, bien, vous êtes pas beaucoup zurichoise, donc je vous ai montré les QI de sommeil. Et la seule, il n'y a aucun lien entre croissance et durée de sommeil, il n'y a aucun lien entre beaucoup de choses et durée de sommeil. La seule chose, c'est les enfants les plus intelligents et ceux qui dorment le moins. Donc le test, c'est ce que nous on appelle une corrélation inverse, ça veut dire plus grand le besoin de sommeil, plus bas le QI et inversement. Mais c'est que c'est ce qu'ils ont trouvé dans cette corde, de façon d'enfant. Et je dis quand même on fait ce qu'on veut, j'ai pas commenté, j'ai gardé ça pour maintenant, tout le monde a oublié où chacun était. Mais je dis quand même, quand on regarde les grands décideurs de ce monde, qui passent les plus intelligents, mais c'est tous des clients. Il n'y en a pas beaucoup qui disent, oui, alors moi je suis président, mais j'ai besoin de gagner 12 heures.
Est-ce que ce déficit sera grande plus
que c'est une bonne question et je suis hyper frustrée de vous montrer, mais c'est une seule étude dans un enfant Norvège, c'est publié là maintenant en janvier 2016. Et eux, malheureusement, ce qu'ils montrent, c'est que plus la différence est grande entre week-end et semaine, et moins bonne sur les notes. Donc dans leur population, c'est les enfants, plus ils avaient besoin de rattraper le week-end et moins de temps. On fait ça quand même avec précaution, c'est des... malheureusement, c'est ce qui est. Si l'école commence.
C'est mieux.
Ils ont des meilleures performances scolaires, moins d'absentéisme, meilleure santé, moins de dépression. Et évidemment, il faut associer ça à moins de devoirs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, ok, on commence à faire, mais après, vous faites 3 heures de devoirs à la maison, puis voilà, finalement, ils sont épuisés parce qu'ils ont dû se coucher hyper tard pour faire des devoirs. Donc, on ne peut pas juste commencer l'école plus tard. Ça, c'est juste ça, c'est plus tard. Moins d'écran. Évidemment, si on commence l'école plus tard, il ne faut pas tout simplement tous des câbles et que finalement on se couche encore plus tard. Et puis pas de tarif. Mais disons, ça a vraiment été démontré, ça a été testé dans des états, dans des villes entières aux États-Unis, dans différents pays, où ils ont testé ça. Et pour les ados, c'est clairement une voie explorée. Clairement. C'est bon jusque-là? Comment est-ce que j'investigue, comment est-ce que quand un enfant, Anne, la fameuse Anne, elle a fait ça sans besoin, comment est-ce que je recueille les données de son monde? En fait, ce que moi je fais, et puis ce que les parents peuvent faire, je pense qu'ils peuvent vraiment se faire aussi fondamentalement, je fais écrire, alors moi je fais ça comme ça, moi j'ai l'habitude de faire des petits, pour les enfants, mais pour tous les âges, je fais ça pareil, c'est que je demande pendant 2 semaines, que l'enfant ou l'ado dise quand est-ce qu'il va se coucher et quand il dort. Pas quand il est au lit, mais quand il dort vraiment. C'est le lendemain matin, il regarde, il nous dit quand il va regarder d'un matin à l'autre, combien de fois il s'est réveillé, combien de temps il va se réveiller et quand il se réveille. Et ça, sur 2 semaines. Pourquoi sur 2 semaines? Parce que j'ai envie de savoir en moyenne sur 2 semaines combien il dort. Et puis, on sait tous qu'on peut se coucher tard un soir, parfois on récupère le lendemain, on se couche un peu plus tôt, etc. Donc sur 24, 48, sur 3 jours, je ne peux pas savoir en fait quel est le besoin de sommeil de l'enfant. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de savoir combien cet enfant, cet ado a besoin de dormir. Ben, sans savoir ça, j'ai aucun moyen d'accompagner. Mais pourquoi j'ai besoin de savoir ça? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, pour chaque personne c'est différent. Pour chaque enfant c'est différent, pour chaque ado c'est différent. Donc je ne peux absolument pas dire à un ado, enfin, il faudrait que tu couches à telle heure et que tu te lèves à telle heure. Moi, j'ai aucune idée combien lui il a besoin de dormir, quelle est sa biologie pour se réveiller. Donc pour le savoir, j'ai besoin de 2 semaines de recueil. Alors l'analyse, ça veut dire ça, c'est les questions que je pose. Qu'est-ce que je regarde sur ce protocole sommeil? Je regarde aussi le rythme. Est-ce que c'est régulier, très irrégulier? Je pose des questions sur l'hygiène de sommeil. Est-ce qu'il y a un rituel avant de dormir? Alors, on pense souvent à la petite histoire, la petite chanson pour les ados, ça n'a aucun sens. Moi, je leur dis souvent, ben moi, quand je prends une douche, je lis quelques pages, je me tourne, je prends mon oreiller et puis je fais comme ça. Et puis, ce que je fais, c'est quand la nuit, je me réveille, je reprends mon oreiller et je fais comme ça. Donc après, pendant la nuit, il peut se passer plein de choses. Mais juste quelque chose qui prépare l'organisme à ce moment qui va être de s'endormir. Ça va pas être une petite histoire, ça peut être quelque chose de complètement différent. Et bien, la lecture versus l'écran, c'est la même remarque que ce que j'ai fait avec la veilleuse. Alors, je dis toujours aux ados de lire plutôt que de regarder leur iPad. Et là, ils me disent, ouais, mais j'ai aussi besoin de lumière. Ouais, mais bon, la lumière, elle n'est pas dans tes yeux, elle est sur le livre. Et c'est très, très différent par rapport au message qu'il y a dans le cerveau. Non, on le sait tous. Ouais, par les liseuses, la lumière bleue, alors qu'on prend des lunettes pour leur queue. Le problème, c'est vraiment, c'est juste. Alors, ça, c'est un problème. L'autre problème des écrans, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais quand même, un gros problème des écrans qu'il n'y a pas dans les liseuses, c'est le fait que le cerveau est tellement actif pendant qu'on est devant l'écran. En fait, beaucoup plus actif que ce qu'on croit, et puis ça vaut beaucoup à vous. Moi, je me rends compte que j'ai fait mon jour de recherche, je suis sur Internet, je suis sur l'écran toute la journée, et puis. Je regarde si j'en ai 8 heures et je réponds que le docteur Camus, mais tiens, et en fait, le cerveau, il est en très très grande activité. Alors qu'en fait, on dit ouais, non, mais je me repose, je suis devant l'écran. En fait, quand on est devant l'écran, le cerveau est très 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 actif et beaucoup plus. Et le corps, pas du tout. Donc après, on entre dans une sorte de fatigue du cerveau sans fatigue du corps, mais c'est un peu un autre thème. qu'il a le zeus et moi, parce qu'habituellement avec le zeus, on reste vraiment sur la même page, nous, on bouge les yeux, et c'est pas l'écran qui... Non, c'est pas le message qui est sur l'écran qui bouge toujours, avec le cerveau qui va tout le temps s'adapter. Donc le problème aussi de l'écran, c'est extrêmement fatigant pour le cerveau. Boisson énergétique, bon, mais ça paraît bête, hein, mais je veux dire, il y a plein d'ados qui boivent un litre de coca par jour, mais ouais, mais coca, c'est de la caféine. Bon, moi, je ne peux pas boire de coca, qui après dormir. Lumière bleue. Je pose toujours des questions sur le sport. Ça, chacun va trouver du sport juste avant de dormir. Souvent, ça réveille. Hein. C'est vraiment, il faut quand même laisser quelques heures hein, le sport, le moment de dormir, parce qu'on n'arrive pas. Je pose beaucoup de questions sur la fatigue de la journée et c'est quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes avec des copains, vous êtes en famille, vous êtes en train de jouer, vous êtes épuisé, vous êtes en train de dire non, mais quand je suis avec mes copains, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est un épuisement que vraiment je tolère chez les ados. Ça, c'est ok d'être épuisé en famille, tant qu'on n'est pas épuisé avec les copains, etc. Je pose des questions évidemment sur les résultats scolaires, comment ça va à l'école, des choses comme ça. Et puis, hyper important, et ça c'est important pour vous en tant que parents, je pose la question aux parents, et vous avez besoin de combien de semaines? Parce que vous serez hyper étonnés. Moi j'ai des consultations, mais des fois j'ai bien dans l'absurde. J'ai eu il n'y a pas longtemps une consultation, c'est un enfant, c'est un ado, qui sont venus voir parce qu'un enfant, tous les matins, il se réveille à 5h du matin. Tous les matins, 5h du matin, c'est fini. Toute la ramesse, tout ça, perdu du matin et vous allez prendre combien? Ah ouais, j'ai quand même besoin de 17 heures, ok. Le moyen pour les hommes, c'est 8 et puis 8h30. 7, c'est un peu peu, mais pas très très peu. Puis je dis, vous faites quoi comme métier? Je dis, prenez maintenant ce qu'il me fait, vous voyez, voilà, je me lève tout le matin 4 heures, et puis. Comme vous, j'ai 4 heures, et du moins, je suis ok. Mais pourquoi vous croyez que le fils a 5 heures de travail? Parce qu'il est fait comme vous! Vous êtes extrêmement héréditaire. Et donc, si vous êtes un petit ou une petite dormeuse, ou votre conjoint, ou cherchez, ou un grand-parent, des fois c'est des grands-parents, en effet, c'est exactement comme quand vous allez. Quand vous allez chez le pédiatre, et puis qu'on mesure votre enfant, quand on le mesure, il est petit, la première chose qu'on regarde, c'est la taille des parents. Et si les deux parents sont petits, bon, ben voilà pourquoi. C'est la même chose pour le sommeil, mais souvent les gens l'oublient. Les gros dormeurs font des gros dormeurs, les petits dormeurs font des petits dormeurs. L'autre chose, et puis ça je vais vraiment y revenir, c'est que c'est quasi que les petits dormeurs que sont en consultation. Les gros dormeurs, il n'y a jamais personne qui s'en fout. Une fois que j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je dis aux parents et aux ados et aux tous ceux, c'est pareil, un peu pour tout le monde, c'est que je dis attention aux besoins individuels de sommeil, un peu de calcul, hein, moi je fais un calcul, mais ça des fois les enfants ils viennent, ou les parents ils viennent même avec leur propre calcul, ça peut se faire vraiment ça. Et là, je dis voilà, j'ai divisé par 12, j'ai fait le total du nombre d'heures que l'enfant ou l'ado a dormi, et puis j'ai divisé par le nombre de jours. Et puis après, je leur dis maintenant, il faut instaurer un peu. Je raconte toujours, dans toutes mes consultes de sommeil, je raconte exactement ce que je voulais raconter. Le rythme circadien, l'homéostase du sommeil, etc. Et je leur dis, ben voilà, rythme circadien, l'enfant a besoin d'un rythme. Parce que, autrement, il est tout le temps en jet lag. Si un jour il se touche à telle heure, l'autre jour il se touche à une autre heure, etc. Le corps, le problème, c'est que du coup, les deux rythmes ne vont pas ensemble et c'est beaucoup plus dur de dormir. Attention, ne changez rien chez un enfant qui dort bien. Rentrez pas longtemps à la maison en disant maintenant le dimanche il faut que tu travailles à 7h, à la vie, il faut travailler tous les jours la même chose. Ça, c'est ce que je fais quand ça va pas. Hein? On est d'accord, okay.
Mais si on couche notre enfant tous les soirs à 8h et puis qu'avant 10h il ne dort pas,
voilà.
Est-ce que justement il faut décaler cette heure du coucher?
C'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce qu'en fait, la première endroit où il faut introduire un rythme, c'est au réveil. Et jamais le soir. Le rythme, il vient par le réveil. Parce qu'il faut être réveillé depuis longtemps, souvenez-vous, au massage du sommeil, pour être fatigué. Alors, je donne souvent l'exemple du jet lag, parce que je trouve que c'est un bon exemple. Nous, on voyage justement souvent en Asie, et quand on part en Asie, ben, le premier soir, les trois premiers soirs, les enfants, jusqu'à 8-2 heures du matin, ils ne sont pas fatigués. Parce que chez nous, c'est 6 heures du soir, et puis du coup, coup, ils sont en pas fatigués, je dirais, jusqu'à minuit. Non, à minuit, c'est 6 heures du soir. Donc, vraiment, ils mettent du temps à être fatigués. Qu'est-ce qu'on fait? On les réveille le matin. Le premier jour, ils sont totalement épuisés. Le soir, ils s'endorment déjà un petit peu plus tôt, mais on ne les force pas, ils s'endorment quand ils s'endorment. Et on les réveille le matin, le troisième soir. Et effectivement, ils passent par un moment où ils sont très fatigués. Et puis, ils se réveillent. Donc, un rythme qui s'instaure toujours par le matin et jamais par le soir. Ce n'est pas comme un truc pour tout couler sur la mer. Non, il faut que réveiller tous les machins sur la mer. De nouveau, il y a une situation où il y a un problème de sommeil. Après, il y a des enfants qui sont capables de vivre avec beaucoup d'exceptions où c'est jamais un problème de changer rien ou une situation comme ça. Et très souvent, quand on change le rythme, on passe par un moment de déficit de sommeil, mais c'est ce qui permet d'accéder. Pourquoi c'est si important de connaître ce besoin individuel de sommeil? Parce que en Suisse, alors ici on est en Suisse, alors à Genève, chaque fois je dis, par exemple, vous êtes chanceux à Genève parce qu'on couche les enfants vers 8h et 9h, pensez en Suisse. J'ai un livre anglais pour apprendre à lire l'heure, et puis à 7h c'est mis It's bedtime, it's 7 o'clock. Le livre est bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Enfin, 7h ils sont mis. Mais disons que 9h au lit pour un ado, hein, 10h du soir, 7h du matin, c'est assez classique. Coucher 10h, travailler 7h. Si on a besoin que de 7h de sommeil, on va revenir à la courbe, je vais la montrer après. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'ados qui ont besoin de 7h de sommeil. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup d'enfants aussi. Ils ont le choix, soit ils n'arrivent pas à s'endormir, parce qu'en fait, ils ne sont pas autant fatigués. Et en plus, c'est des ados, donc le soir, c'est pas facile de s'endormir. Ça, c'est typique des ados, évidemment. Et même aussi des enfants d'âge scolaire. Parce que chaque fois, je dis aux parents, mais vous ne souffrez pas quand vous étiez à l'école et que vous cachez sous la couette pour lire le soir quand vous n'arrivez pas à dormir. Ils disent, oui, je me souviens. Voilà, ça, c'est les petits dormeurs qu'on a mis trop tôt au lit. Alors, ils ont trouvé des stratégies. Donc ça, c'est la possibilité. Les exceptions, mais c'est plutôt les plus petits, les bébés, ou justement mon petit, c'est à 5h du matin, c'est ceux, ben voilà, ils dorment leur 7h, et puis ils sont réveillés le matin. Et ça, c'est les plus petits qui vont en consultation en 6 mois et 3 ans, et 5 ans, ou 4 ans. Eux, c'est ça, c'est des petits qui se réveillent 4 ans. Parce que eux, ils prennent que leur 7h, mais ils font des petites pauses, je ne vais pas en détail, d'accord, c'est pas le sujet, mais ils font des petites pauses au milieu de la nuit pour vérifier que tout le monde. Tout est bien comme quand ils se sont endormis.
Est-ce que ça peut être un rythme de sommeil d'un enfant d'amis si on les couche à la bonne heure, d'autres jours, et puis qu'ils se retrouvent à voir, ça va changer de place pour les bras?
Oui. Alors vraiment, en fait, souvent, ces ados, ces enfants, ils ont un sentiment de ne pas dormir vraiment. Parce qu'ils ont le sentiment, parce qu'ils n'ont jamais été assez fatigués, donc ils font des petites choses, des sortes de micro-siestes, ça tire en longueur. Donc souvent, ça c'est l'expérience que j'ai, ils me disent, je ne dors pas la nuit. Je leur raccourcis leur nuit, drastiquement, ils ont le droit d'être 5 heures au lit, et tout le monde, ils disent, oh, je vais faire des rangs. Alors qu'avant, ils étaient, je sais pas, 9 heures au lit, et puis on dit, quand j'en dis aux parents, mais avant, ils vont être couché à 9h du matin, ils vont être avec des gens, des gens qui ne dorment pas. Je dis, mais justement, c'est parce qu'ils ne dorment pas. Donc, effectivement, ils ont souvent subjectivement l'impression de très mal dormir.
Mais là, par exemple, aux ados à qui vous dites que vous allez dormir à 1h du matin, ils vont faire quoi jusqu'à 1h du matin?
Tellement qu'ils vont mettre sur notre patin, hein. Mais alors, moi, j'ai des limites à mon intervention, c'est que je ne suis pas censée partir en soirée, alors voilà, on peut lire un peu de... Et très souvent, les parents, évidemment, qui ne sont plus des ados, eux, dorment. Mm-hmm. Après, il faut improviser, hein, les règles du genre, pas d'écran, après telle heure, on enlève tout ce qui est téléphone, etc., c'est quand même une règle d'or, mais si on ne l'a pas, c'est compliqué de faire quoi que ce soit, parce que tout simplement rester devant l'écran, là, la fatigue, elle ne vient jamais. Donc là, elle vient que la journée. Donc il faut vraiment essayer de trouver des contraintes avec les ados, réfléchir à ce qu'il faut faire. Et puis, il y a une chose avec les écrans, écouter de la musique, ok, ça c'est encore autre chose, écouter de la musique, après il y a des choses quand même sympas à faire qui sont moins collées les yeux. faudrait supprimer en fait les écrans combien de temps avant l'endormissement? Je ne connais pas d'études qui disent exactement combien de temps, hein, mais je dirais facilement une heure, Pour donner la possibilité juste au cerveau, à la mélatonine de long terme. C'est vraiment ça. Donc, facilement une heure. Alors souvent, ce qu'on arrive, on essaie de discuter, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Je discute avec des ados, des frères, quoi, qu'est-ce qu'on commence, que tu imagines, etc. Puis, j'essaye d'arriver au truc après le repas du soir, qu'on laisse, mais bon, tout le temps, on est tout, des fois, c'est autre chose, mais après le repas du soir, proposé, ou alors, avant, c'est clair, parce que si je couche à une heure, maintenant, ça va être un peu plus tard, après le repas du soir, c'est vraiment bon. Mais je ne sais pas donner, je vous dis ce que je dis, ce que je fais, mais.
Et les enfants qui mettent 2 heures sur le monde, ils vont coucher avec toi, c'est quand même dur.
Les enfants qui se couchent à 10h du soir et qui se réveillent à 10h du matin?
Non, parce qu'on couche à 10h, qu'on s'endorme à 10h et qu'on aimerait dormir à l'avance.
Et qui se réveillent à 7h, c'est ça ma question.
Ben, on les réveille à 7h pour le lendemain à l'école.
Alors, à ces parents-là, et qui font une sieste?
Non, pas
plus de sieste, excellent. À ces parents qui passent pas, ils les couchent à 10h. Avec ça, on change rien. Souvent, ils disent, oui, on va pratiquer, mais non, on ne change strictement rien. Leur sommeil, déjà, ils s'endorment à 10 heures. Oui, mais ils vont s'endormir encore plus tard. Ça ne dure pas longtemps. Ils s'endorment encore plus tard. Ça dure. Donc, si je continue à les réveiller à 7 heures, ça ne dure pas longtemps. Ils continuent à faire un peu leur sommeil. Ils font un soir, deux soirs,
trois soirs, deux soirs.
Mais ça commence, le rythme commence vraiment par le matin et puis après d'adapter le coucher
aux enfants. C'est justement le matin, le réveil.
C'est parfait. Puis après, du coup, on adapte le coucher à quand est-ce qu'en fait, ils s'endorment. C'est la plupart des enfants, disons, à part les grands liseurs. Moi, j'ai un grand liseur dans mon enfant. Et lui, c'est un petit dormeur, un peu stable, il a tous les défauts, il est. Lui, je n'ai aucune idée à quelle heure il s'endort. Il dit son, pour la 8e fois son Harry Potter. Et il s'endort quand il s'endort. Mais le problème de la plupart des enfants, c'est qu'ils ne sont pas autonomes dans cette période. Et c'est ça qui nous embête. Maintenant, je ne parle pas des ados, hein. Je parle des ados partout aussi. Mais je veux dire, souvent, ce qui nous embête en tant que parents, c'est qu'ils viennent nous déranger 1000 fois et nous dire. Et puis nous, on a envie d'avoir notre soirée, faire un film ou je ne sais pas quoi. Et puis ils viennent 1 fois nous dire qu'on va toujours les coucher, puis c'est des disputes, etc. Donc souvent, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont pas autonomes. Alors là, il faut essayer de soutenir cette autonomie en essayant de proposer qu'ils puissent regarder un livre, qu'ils puissent jouer un moment. Justement, tu peux jouer tranquillement, ils peuvent te dire, etc. Mais ça ne peut pas non plus 2 heures. Donc on ne demande jamais à un enfant d'être 2 heures tout seul dans sa chambre, la porte fermée, de ne pas vous déranger la journée, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Et tout à coup, le soir, on aimerait qu'il puisse le faire, mais souvent, juste, ils n'y arrivent pas. Donc, il faut essayer de trouver à quelle autonomie ils ont et trouver combien de temps on peut leur demander. Et puis, donc voilà, peut-être que 3 quarts d'heure avant, on peut même les coucher en disant derrière un livre, ouais, je ne sais pas quel âge. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire tout ça pendant 2 heures. Donc, si l'enfant s'endort avec un livre, on peut les coucher à leur manquer. C'est les thèmes, les avocats, les couleurs. Et maintenir le rêve. Oui.
Parce que j'ai un temps de 1 heure parce que les écrans, hein, avant les micro-ondes, il y a une bonne heure. Le SAP est donc plus agité, tu vas parler des écrans, mais pas forcément.
Ça, je sais pas. J'ai aucune idée.
Je peux pas vous prouver ce que je peux faire.
J'ai une question. Non. Il y a une difficulté à s'endormir. C'est assez brutalement. Il y a plein d'endroits, il y a plein de peur. De tout ce qui nous entoure, à quel on va toucher la santé, tout est épuisé. Est-ce que justement le fait d'avoir un moment où il est veillé dans son lit, mais il ne dort pas, il a peur, son dormir, il a de stress trop beau le matin, est-ce que ce moment-là, le stress encore plus, il repousse encore plus à l'heure?
Alors, je connais évidemment pas votre fils. Là, le thème d'aujourd'hui, c'était vraiment le sommeil. Donc, je ne vais pas du tout entrer dans d'autres problématiques. Je mentionne juste, ça ne concerne pas du tout votre fils. Hein, mais je mentionne juste qu'on peut avoir d'autres raisons pour lesquelles on ne dort pas, hein, on est déprimé, on est anxieux, etc. je vais pas aller là-dedans parce que si on parle vraiment du sommeil, mais ce que je sais vraiment d'expérience, c'est que le fait d'être au lit sans réussir à s'endormir, c'est extrêmement important. Indépendamment de toutes les angoisses qu'on peut ou ne pas peut avoir ou ne pas avoir pendant la journée. Donc si par ailleurs votre enfant, c'est pas un enfant qui vous a l'impression que sa problématique principale, c'est l'angoisse, parce que les angoisses, elles viennent dans toutes les situations visibles, en fait, de faire autre chose, mais que c'est vraiment lié au coucher, plus on les couche fatigués, et mieux c'est, parce que d'être dans son lit, alors on a tous fait cette expérience, d'être dans son lit, dans le noir, de ne pas réussir à dormir, et en plus si les autres dorment, c'est super difficile. Donc vraiment, je vais revenir ça avec Anne, la Anne que je vous ai montrée au début. Les parents, ils étaient partis, bon, quand je dis pas qu'elle a besoin de psychothérapie, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais donc c'était leur première idée, puis en fait ils se sont dit, je m'en panique, parce qu'en vrai, du coup, je m'en dis, stop, là, une heure plus tard, stop, qu'elle reste une heure dans son lit, à pas réussir à dormir. Et puis, chez elle, oh, ça a été du point de vue du sommeil, c'est devenu fatigué. Parce qu'elle était plus une heure, tout seul, dans moi, et dans mon à faire des choses. Donc en soi, c'est une source d'angoisse. Dans son lit. Donc là, il faut vraiment les coucher le plus épuisé possible pour qu'ils repassent l'expérience. En fait, je suis comme tout le monde et j'arrive à dormir. Quitte à passer par une semaine débutante. L'autre chose qui est très importante, peut-être que j'ai bien, je vous dis. C'est que, parce que maintenant, je vous rappelle que j'ai bien, mais je vous dis maintenant, qu'on est en train de parler de cas précis, c'est qu'il faut tenir bon sur la durée. Vous pensez pas à une vague, vous allez voir les coucher un soir plus tard, et tout va être réglé. Pensez au jet lag, je vous assure, quand nous, on va en Asie, ils sont dans le rythme, mais pas pour ça. Ça prend un certain temps, hein. Ça prend à peu près 2 semaines pour changer un truc. Et là, ils vont tenir bon et ils sont épuisés et ça va pas. Et ce qui est compliqué pour les enfants d'âge préscolaire, c'est qu'après ils s'endorment dans la voiture et tout est foutu. Dans les enfants d'âge scolaire, il faut juste prévenir à la retraite et voir, mais désolé, ils vont être un peu fatigués dans les 2 semaines. Mais c'est pour qu'ils ne soient pas désolés. Donc il faut vraiment essayer de prévenir et puis il va être fatigué. C'est que par là que nous allons changer. Donc,
si vous voulez un peu désolé, vous pouvez aussi la tête sur le week-end.
Oui,
vous de tous les mois, mais comme dimanche,
oui, dans la période de changement, on instaure le nouveau rythme. Alors, avec les ados, on est obligé de faire le nouveau rythme. C'est un peu possible, je vais en dire, 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 je vais en
dire, je vais en dire,
enfin, juste dans la période d'instauration du rythme. Une fois que ça roule, ça prend 2 à 3 semaines, une fois que ça roule, après on dit ok, on refait les exceptions et on regarde ce que ça fait. Puis peut-être que ça va bien, il a pris confiance, il sait dormir, puis finalement il se réussit le dimanche soir, il tourne un peu dans son lit parce qu'il s'est couché plus tôt, c'est lendemain c'est le... Ou si lundi il est très fatigué, tant qu'il peut, j'ai fait ça. Ou alors si on se rend compte dès qu'on fait les exceptions, ça va pas, donc c'est... Voilà. Parce qu'on peut...
Un enfant qui va faire un problème, qui va pas trop vite déjà, oui, aussi, est-ce qu'il faudrait réduire les tests après-midi?
Ouais.
Alors, encore, vous savez pas, vous après, l'enfant va être fatigué.
Ouais. Alors, ça, c'est une très bonne question. Le problème des siestes, c'est que de nouveau, c'est très individuel. Chaque enfant a. Donc, c'est individuel quand les enfants peuvent arrêter de faire des siestes. Ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les crèches, c'est que souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas du vôtre, mais souvent ils sont à la crèche où, indépendamment de leur besoin de sieste ou pas, on est couché dans le noir pendant 20 minutes avec tout le monde qui monte à côté, on s'endort. Donc souvent ils disent oui, mais il avait besoin. Ouais, mais bon. Donc il y a des enfants qui font des siestes alors qu'ils n'en ont plus besoin, typiquement les enfants en crèche. Donc ceux-là, il faut vraiment essayer de trouver un moyen de
faire. Plus de voitures comme ça que d'autres, c'est que tout le monde est sur d'autres. Mais...
Ouais, alors dans la période d'instauration du nouveau rythme, il faut essayer d'éviter les trajets quand ils sont fatigués, etc. Mais c'est juste en 2 semaines pour se mettre en rythme. Et aussi le problème, c'est d'enfants qui. Enfin, après, il y a des enfants qui passent par une période pénible où ils ont encore presque plus besoin de sieste. Et une fois que les 3 jours, ils ont quand même 4 jours, ils ont encore ce crack. Donc des fois, il faut juste patienter quelques mois, ça se résout tout seul. Vraiment. Mais il y a une période où il faut essayer vraiment, si l'enfant a l'âge de plus faire la sieste, et je ne peux pas vous dire quel âge, les petits dormeurs, je pense qu'à attendre, les petits dormeurs, pas depuis 10 mois, je fais la sieste. Alors, que, ah oui, là, je suis venue à la durée de sommeil, ça c'est l'exemple que je vous montrais, 7 heures pour un ado à 16 ans, il y en a plein en fait. Alors, ce que moi je montre à chaque consultation de sommeil, je montre ce graphique et je montre où est l'enfant et moins les enfants. Tu vois, ils sont pratiquement tous là. Voilà. Évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ceux qui sont là, personne ne s'entend. Hein, donc, je leur dis tout à l'heure. Personne ne s'entend. Donc, à part que les ados, certains s'épuisent parce qu'ils ont besoin de beaucoup de sommeil, mais ils ne veulent pas aller sortir avec les copains. Donc, hygiène de sommeil. Donc on a dit rythme régulier, adapté au temps de sommeil, hygiène de sommeil, rituel avant de se coucher, le lit c'est que pour dormir et pas pour tourner en rond et chercher le sommeil, hein, c'est que pour dormir. Et avant, hein, sauf si on est mis au lit ou qu'il y a des sacluches, je ne sais pas, pour essayer de dormir pendant une heure. Donc on reste ici, on reste dans une heure de lit, c'est pas d'écran, pas d'écran, pas d'écran. Les parents doivent quand même soutenir leurs ados parce que spontanément, leur rythme endogène, ils roulent pour se coucher de plus en plus tard, beaucoup d'ados. Donc là, ils ont quand même besoin d'aide extérieure, mais je pense que vous le savez pour tout, hein. Il faut quand même discrètement les guider, ou non pas discrètement, tellement pour les soutenir dans leur rythme. Et ça, ça a été vraiment en plus décrit ces choses-là comme étant des facteurs protecteurs. Le sommeil des ados. Anne, qu'est-ce qui s'est passé à Anne depuis un moment? Elle est devenue ado, tout simplement. Et puis, elle est allée un peu moins besoin de sommeil, plus elle s'est décalée un peu vers le soir. Et chez elle, bah, c'est une personnalité qui a un peu tendance à être anxieuse, ça s'est exprimé par l'anxiété le soir, parce qu'elle n'était pas ça. Son rythme était assez régulier, elle était régulièrement une heure pour s'endormir, elle n'avait pas de réveil nocturne, elle n'avait pas de rituel, pas de boisson énergétique. On a mis un stop écran, elle était légèrement fatiguée. Elle n'était pas trop fatiguée, elle s'était surtout lancée des 60 minutes. On a retardé le coucher pendant une heure. Alors elle était régulièrement une heure couchée, donc c'était même pas tous les soirs une heure. Donc elle a été un peu drastique, et chez les ados, je suis assez drastique. Chez les petits enfants, moins, c'est-à-dire que je les mets un peu en tête de sommeil. Donc en faisant vraiment une heure, en fait, je la faisais dormir un peu moins que ce qu'elle dort. Pour qu'elle reprenne ce que tu fais. Cette confiance en elle, je me couche. Et puis, après, j'ai dit au bout de 2 semaines, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut re-avancer un peu. Une fois que l'on refait cette expérience, ok, je peux me coucher. Et on a introduit un rituel. Alors, je vais vous parler de ce que je connais. Je ne connais pas du tout, ni, je ne sais pas, des relaxations et autres. Je n'ai pas du tout une question. Ce genre de domaine. Que je connais un peu mieux, c'est les interventions basées sur la pleine conscience. Et puis, c'est quelque chose que je propose souvent en vidéo. Ça, c'est en l'occurrence, ça que j'ai trouvé sur Internet. C'est un logiciel, donc c'est un scan corporel basé sur les interventions basées sur la pleine conscience, exprès pour les ados. Ça peut être 10 minutes environ. Puis, c'est juste prendre conscience de ton corps, je sens mes jambes, mes pieds, des choses comme ça. Ça, c'est, je le fais moins parce que j'y crois, parce que je pratique, etc. Mais après, chacun peut trouver quelque chose qui peut proposer à ses ados pour trouver une petite transition avant la nuit. Mindfulness et le sommeil, donc pleine conscience et le sommeil, ça a été publié. Il y a des études qui ont vraiment montré que ça a été bénéfique, donc ce n'est pas juste une invention de la part, c'est vraiment une étude génétique. Il y a des études qui ont montré que ça a les mêmes effets bénéfiques sur le sommeil que les somnifères. Et ça améliore la rapidité des endormissements. Alors, Yannis, c'est une autre situation pour vous expliquer. Alors, c'est une situation un peu extrême, c'est un peu pour illustrer sur le qu'on a déjà longuement discuté. Donc, lui, c'est un garçon.
Bah, ils sont tous
extraordinaires. Mais il est vraiment extraordinaire, celui-là. Il se couchait tous les soirs à 21h30, 16h. Il s'endormait entre minuit et 4h du matin. Oui. Ça, ça montre tellement sa bonne volonté. Il voulait vraiment bien faire. Il faisait souvent des siestes. Il était totalement épuisé. Mais totalement épuisé. Il se levait en 8h et 10h. Et il faisait un instrument de musique. Il n'arrivait presque plus à jouer. Il avait un absentéisme scolaire. C'était franchement lui. Il n'avait pas d'âme pour tout ça en se couchant tous les soirs à la bonne. Son besoin de sommeil, il était plutôt dans les bas percentiles, donc plutôt un petit dormeur, mais pas non plus un dormeur extrêmement petit. Il m'a fait, ça c'est son protocole de sommeil, il m'a dit déjà, en fait, il avait spontanément écrit, lui, tous les jours, tricoté, il avait déjà fait top 5 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Il n'avait pas fait un petit protocole. mais ce que j'ai pu observer, c'est que le rythme est extrêmement irrégulier de sommeil, sauf pour le coucher. Alors lui, il est vraiment la nuit pour le coucher, mais c'est pas ça qui compte. Et puis, il est régulièrement 4 heures au descendant. J'ai demandé, est-ce que toi, Rachel, tu peux revenir? Oui, je m'ai dit, tu es venue avant de m'endormir tous les soirs au travail. Non, il n'y en a pas beaucoup qui comme ça. Et en fait, ça me rend dans l'angoisse, et c'est une raison pour laquelle il est venu, c'est qu'il partait au bout de temps, de nouveau. Il partait au bout de temps, et ma mère, elle dit, comment ça va aller? On ne va pas pouvoir voyager, il ne dort pas, il est totalement épuisé, et je vais pas comment on va faire. Il ne buvait pas de boisson énergétique, pas d'écran, il n'avait vraiment pas d'écran. J'ai dit, tu ne couches plus tard. J'ai dit, stop. Donc chez lui, vraiment, couchez tard, couchez tard, couchez tard, plus de sieste, fini les siestes, fini les siestes. Et puis, il faut se réveiller tôt, de la lumière au réveil. On a vu que ça n'a pas autant d'influence que chez les plus jeunes, mais quand même, c'est ça qui va dire au cerveau, c'est la journée, de la lumière. Il va aussi s'éviter de tout de suite sortir, ouvrir grand les volets, mettre la lumière. Il y a ces lampes aussi, hein, qui donnent l'aube, qui sont, il y a pas mal d'études dessus, alors c'est pas révolutionnaire, mais tout ce qu'on peut faire, d'abord, bouger le matin. Moi, je leur propose, il y a quelques petits exercices juste de bouger, hein. C'est nouveau, l'idée, c'est de donner au cerveau l'information, c'est le jour. Et puis, on peut aussi faire par le mouvement, manger un petit quelque chose, souvent, c'est pas ça. Hein. Donc, au moins, bouger, faire des petits exercices. Hein. À lui, je l'énerve de la colline. On y vient. Donc la mélatonine, c'est pas un somnifère, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une hormone qui vit au cerveau, c'est la nuit. Et puis, dans certaines conditions, j'en veux franchement, je ne sais pas si c'est du passé, mais je me pose la question. Parce que j'ai fait nombre de littérature sur la mélatonine, regardez tout ce qui a été publié, etc. Et les dosages sont tellement différents d'une étude à l'autre, etc. Mais j'en donne de temps en temps, et ça ne fait pas dormir, c'est pas un somnifère, ça n'altère pas la qualité de sommeil, ça n'augmente pas la durée de sommeil, ça n'a aucun de ces effets-là, mais ça dit un petit peu au cerveau que c'est l'heure d'aller dormir, et des fois je les donne. J'ai des bonnes expériences. Ça, c'est le protocole de Yanis après, donc coucher à minuit et demi, réveiller à 7h, et il va être un jour plus fatigué. Quand Yannis est parti au bout content. Et il était, alors lui, voilà, hein, c'est un ado, donc il y a des types d'exceptions, ce qui fait qu'il y a aussi des types d'exceptions soi. Et lui, il continue maintenant. Qu'est-ce qu'il a gagné comme temps, hein? Il couche à l'heure de nuit, il a fait des élections de bébé. Tristan, lui, je viens juste de le voir. Alors, juste là, maintenant, entre Noël, non, juste avant Noël, lui, c'était un peu, lui, par contre, un peu peur, parce qu'il est arrivé en disant, vraiment, il avait une semaine majeure, et lui, c'était un de ceux qui disaient, je dors pas la nuit, je n'ai pas été mais il se couchait vers 22h, 23h, et puis après, parfois, il a fait à dormir, puis des fois, il se réveillait, puis souvent, il restait réveillé longtemps la nuit, et puis vraiment, il avait l'impression qu'il dormait pas la nuit, là où c'était compliqué. C'est qu'il était totalement épuisé, enfin, lui aussi, il avait un absenté scolaire, et il venait d'avoir un diabète sur un qui était diagnostiqué 8 mois avant, à peu près autour du début. Donc, un diabète, il est injecté d'insuline, beaucoup d'angoisse, en plus, radio, diabète, tout ça. Donc, lui, je suis un peu partie avec mon protocole, à moins que je mange plus tard, je suis un peu gosse de sa batterie. Voilà ce que ça a donné, il est revenu à transformer. Il a dit, couché. Alors, il s'était décembre, hein, mais là, il n'était pas montré le protocole d'avant, qui était parfait. Super protocole d'avant, il est retourné à l'école la dernière semaine d'école, c'était parfait. Tout bien. Et là, c'est les vacances. Donc, pendant les vacances, on avait 8h30, je crois, 8h du matin, 8h30 pendant les vacances, et puis 1h avant pendant l'école, les vacances scolaires. Et qu'est-ce qui s'est passé là? C'était le 31 décembre, il s'est couché à 6h du matin, et moi quand j'ai vu, la voiture paraissait à 100 mètres. Donc il était nouveau, complètement décalé. Après nouvelle an, c'était la catastrophe. Et du coup, voilà, après, on a dû remettre le rythme. Donc lui, c'est typique, hein, dès qu'on le laisse aller, boum, vers le soir. Alors, comme il était vraiment que, comme il avait un diabète qui était très très soutenu et qu'après c'est passé par un dentiste qui ne se passait pas super, mais il ne s'arrêtait pas du tout à la santé, maintenant que j'ai donné ma bénédiction pour qu'il se trouve plus tard, il a vraiment tendance à partir et à se coucher à 6h du matin. Donc là, il a vraiment besoin un peu plus de soutien pour revenir un peu plus tôt, mais un peu plus tôt.
Quand vous parlez de cas, justement, oui. Comment on s'y prend? Vous dites en même temps que les smash et putain, on se dit définitivement à l'œil, on se dit alors t'es plus en pune, c'est un peu ça, les smash, les smash, c'est à quel âge? Enfin voilà, l'âge intervient pas forcément.
Non, l'âge intervient pas forcément, mais en fait ça dépend tellement des enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme cas, qu'est-ce qu'ils ont besoin, avec quoi, si je vous parle de mon fils, tout à fait, lui, avec lui je sais que je peux dire, bah, tu dis jusqu'à ce que tu aies après, parce que pour cet enfant-là, ça va. Et puis il y a l'autre enfant, je veux dire celui d'après, ça ira pas de dire comme ça. Il va falloir que moi je mette mon réveil, puis j'aille me lever, puis je vais dire allez, maintenant c'est fini. Alors il n'entend pas l'âge, c'est le cas, mais je sais que pour celui-là, ça ira pas. Donc après, chaque enfant c'est différent, puis chaque enfant on sent quelle est l'autonomie qu'on a besoin de baisser. Et quand je dis coucher plus tard, je dis quoi? Ça dépend des enfants. Hein. Moi, je vous donne les cas qui viennent me voir. Ceux qui viennent me voir, c'est tous des petits dormeurs. Je n'ai pas un gros dormeur, donc je ne peux pas vous donner un exemple de gros dormeur. J'en ai jamais eu. En ma consultation, les parents sont venus se plaindre, oui, parce que les gros dormeurs, même les ados, souvent, ils font plus tard. Alors, c'est peut-être quand même ceux-là qui ont des moins bonnes notes parce qu'ils doivent se coucher, parce qu'ils doivent se lever trop tôt au niveau de la semaine. Et puis, les vrais qui doivent le faire. C'est un jeu subtil de trouver cet enfant-là, quelle est la part de liberté, et puis il faut le suivre ensemble. Et pour le suivre, moi, tous ces ados, ils viennent faire avec eux, hein, ça me plante. Je dis, ben voilà ce que t'as besoin. On le met où, ces heures, on le met où. Je fais la même chose avec les parents pour les suivre. Hein. Je dis, voilà votre enfant, il a besoin de temps, vous les mettez où. Parce que le besoin biologique, ça c'est la biologie qui définit. Le temps, on le met, ça c'est la société, les mamans. Hein, le temps, parce que évidemment, c'est pas une question complexe.
Et puis dans le sommeil, ben, quand on regarde, il parle tout le temps de ses craintes, du sommeil, la lumière, les cycles. Si on loupe le premier plein après dans les trois temps de grandeur, ça c'est totalement faux.
Je sais pas, j'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais je vois de quoi il s'agit. Je vois de quoi il s'agit, mais
parce que souvent, justement, si on se décale, en fait, après pour attendre 2 heures jusqu'à temps.
Non, ce qu'on sent tous, c'est ces tiriques ultraviolets. Hein. Ce qu'on sent, c'est qu'on a des moments de coup de pompe et c'est plus facile d'aller se coucher dans un moment de coup de pompe que dans le petit moment qui peut remonter. Ça, c'est vrai. Donc là, je crois, dépend du haut, hein, j'ai passé l'heure, là, je suis très fatiguée. Et faut... Mais il n'y a pas une question d'heure stricte. Ça va. On dit beaucoup les premières heures du soir, il faut se coucher avant minuit parce qu'elles sont meilleures. Ça fait référence au fait que le sommeil profond, il vient en début de sommeil. Mais peu importe quand il est début de sommeil. Il vient en début de nuit. Mais de nuit, de sa propre nuit, son propre sommeil. Que ce soit avant ou après minuit, ça n'a plus d'importance. C'est juste qu'en début de nuit, il y a plus de sommeil profond. Et ce sommeil réparateur, on rattrape la nuit. Après, avec ses craintes, on s'est fait un peu la ça, ça, ce petit sentiment de coup de pompe, quand on va se coucher à ça, c'est tout facile. Et puis quand on se couche pas à ce moment-là, ben, c'est un peu plus
et plus on attend d'être fatigué, plus on va
vite. Il y a des exceptions, je ne sais pas, ça arrive, mais moi, après une conférence comme ça, on n'avait pas de faire, j'avais 2 heures de train pour rentrer, mais c'est clair que si je vais tout de suite aller me coucher, j'ai trop de signaux d'éveil, trop d'attente à la nuit, etc. Donc évidemment, il y a des situations où il est trop excité pour s'endormir, mais dans la vie quotidienne, si ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puis on a peut-être quelques départs, on a un peu ça.
Qu'il y a de l'excitation avec le sport, ça peut aussi faire ce genre
oui,
de choses.
Oui.
Et à ce moment-là, il faudra attendre un moment pour aller coucher.
Oui, absolument.
Ça dépend de l'enfant, mais il y a quelque chose.
Mais il y a beaucoup, il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants, ou des parents, ou d'ados qui disent non, je ne peux pas dormir, je ne peux pas faire du sport. Il y a toujours des exceptions, il n'y a pas de problème. Donc ceux où il n'y a pas de problème, ils peuvent faire du sport avant de s'endormir. Mais ceux pour qui il n'a plus peur, parce qu'ils ont encore quand même 1 heure à peu près.
C'est l'heure où c'est que le sport va devenir ou bien c'est la durée du sport dans la journée?
Non, c'est l'heure par rapport au coucher. C'est la proximité du sport par rapport au coucher. C'est quand on fait du sport juste avant de dormir, ça tendance plutôt à donner un signal de veille au corps.
Pour 10, par exemple, je vais le mercredi après-midi parce qu'il y a un petit mois, qui tourne, et bien en général, ils sont venus se retrouver un peu plus tard que dans toute la semaine. Même s'il y a des entraînements de France.
Il ne s'est pas levé plus tard, non, il est plus grand dans cette semaine. Alors pour lui, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que le sport n'a pas d'influence sur la durée de sommeil. À part ça, beaucoup de parents disent oui, mais normal, il ne veut pas dormir parce que toute la journée il traîne sur le canapé. Si on court dehors toute la journée, on ne dort pas plus que si on traîne sur le canapé. Ça, c'est un peu ce que vous dites, hein, vous marquez ça aussi. Ça va. Alors c'est clair qu'on se sent fatigué du corps et c'est agréable avec votre fatigue, mais ça n'augmente pas la durée de sommeil.
Le mouvement.
Pour les repas, c'est la même chose avec
les repas. Ouais, alors les repas, c'est surtout les repas lourds. Hein. Ça, on sait, quand les repas lourds, quand la digestion est très active, de nouveau, hein, c'est un des domaines de temps du cerveau, c'est la digestion des repas. Donc, quand on vient de manger un repas qui est lourd, finalement, ça donne pas mal de signaux de veille. Donc, les repas légers sont faire mieux dormir, comme ça, comme 10 ans, je sais pas, avec encore un souvent.
Est-ce que la télé fait le même effet que les iPads?
Mais la plupart des études, c'est toujours sur des iPads, etc. J'ai récemment lu, mais c'est pas la même étude, mais là, quelqu'un qui était la lumière aussi de la télé. D'un autre côté, j'ose pas dire oui, parce que le nombre de gens qui sont dans le fond de la télé, c'est moi qui fais des grandes études de compagnie, ouais, c'est moi. Donc j'ai quand même l'impression que la télé, on est loin près dans un monde de lumière. Donc je pense que la télé est quand même nettement moins de concurrence. Parce que je connais personne qui s'endort dans les jeux vidéo ou les jeux d'écran. Donc plein de gens qui s'endorment dans la télé.
C'est la population qui est vraiment.
Probablement s'il y a des de l'activité cérébrale, madame Sevigny, vous avez raison. Il y a une question exactement d'excitation, le jeu, évidemment, il y a l'excitation. Mais même les chats, des choses comme ça, il y a vraiment juste l'espèce d'écran et en plus des
jeux. Même les chats.
Oui,
pas con. Avec
elle. Exactement.
Moi, j'ai une discussion de 2 minutes avec mon téléphone, si je veux lire, mais là-dessus, je vais m'endormir. Oui, c'est parce que je lis.
Oui, et que c'est moi qui vais être moi qui
vais absolument faire la question, c'est absolument.
C'est comme pour accoucher. J'ai dit, bon, j'ai toujours eu des passements de terre, je raconte ma vie, mais j'ai mieux pas accouché aujourd'hui. Aller voir une grande. Ça fait terriblement accoucher. Dis-moi, toutes mes passions, elles me disent toujours, je suis en train de regarder un film en mouvement. Donc, pour finir, la nouvelle pour vous, donc il y a un décalage de phase de sommeil à adolescence qui est d'origine vraiment biologique et qui est renforcé par les changements psychosociaux, hein, par le fait qu'ils ont envie de voir leurs copains et par leurs parents, par les gens qui se décollent dans le bar pour la nuit, et puis par plein d'autres, c'est vraiment leur moment à eux, mais la biologique, là. Une bonne hygiène de sommeil avec un rythme régulier qui est adapté aux besoins de sommeil individuel qui permet vraiment de diminuer ce déficit, mais ça va être soutenu par les parents. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour l'invitation. Pour finir, l'adolescence est quand même un moment merveilleux, ça c'est les deux meilleures copines ados. Et elle, qui est avec la sponsorisation, qui est même sa chef de la médecine des ados du jour. Ça, c'est moi. On était ados et c'est une mère copine. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue entre mère et adolescence. Et puis, ça, c'est la petite famille. Pour... Ça, c'était beau de me faire.
J'avais une question les lunettes, que c'est dans la ruine commerciale.
Alors, ça existe, ça peut se commander en pharmacie. Moi, je connais ça, ça existe en pharmacie parce qu'il y a des enfants qui ont des déficits. Oui, des problèmes médicaux où en fait ils n'arrivent pas à voir, donc ils sont éblouis par les lumières bleues. Donc ça existe surtout en pharmacie, en médical. Si ça existe vraiment comme ça, c'est un très soude, hein, ce que j'ai trouvé. J'ai mis un lien, je sais pas, sur le
dessus. Le commercial, quoi.
Où ça existe, ce truc. Non, ça existe. Alors je ne sais pas combien ça coûte, je ne vais pas regarder. Mais j'ai trouvé cette photo avec le lien parce que ça se vendait. Et moi, je sais qu'en pharmacie, ça vendait. des questions. J'ai posé pas mal de questions au fur et à mesure, mais... Exactement. Alors, j'ai pas du tout parlé, évidemment, là je suis restée vraiment sur le chemin. Ça, c'est la raison qu'il faut même toujours s'assurer que je ne parle pas. C'est rare les pathologies du chemin. C'est vraiment extrêmement rare. Voilà, elle n'a pas du tout, elle n'a pas complètement d'autres choses, des années, des choses. Voilà. Dans ce cas-là, vraiment, vous calculez sur deux semaines. Discute avec elle en disant sur ces deux semaines, alors je crois qu'on va dire ouais, c'est pas ça, je suis fatiguée. C'est pas grave, on va commencer par ça. Hein? On commence par cette durée-là, et si on croise dans un rythme régulier, parce que le problème aussi, c'est d'avoir un rythme irrégulier, on n'a pas dormi suffisamment dans le fatigue. Hein, ça, on le sait tous, ça veut dire que si on a un rythme irrégulier, on est souvent fatigué, même avec une même réflexion. Donc de se remettre en rythme régulier, et ça c'est exactement lié à cette adéquation entre le moment du sommeil et le rythme circadien, s'ils sont en adéquation en phase, en étant moins fatigués que si, ils sont contents. C'est-à-dire qu'on est réveillé à un moment où en fait le cœur va lentement et puis du coup on a un sens de base. Donc elle est très bien, vous comptez sur deux semaines, vous dites voilà, sur deux semaines, en moyenne, t'as dormi, je sais pas, dans cette femme un petit dormeuse, il y a certainement dans la famille des petits dormeurs. Voilà, tu es une petite dormeuse comme moi, ça aussi, t'as évité ça, moi. Donc, tu dors, je sais pas, moi, 7 heures, je sais pas, combien d'heures, mais tu peux tout à fait 7 heures, hein, à l'heure. Petit dormeur, petit dormeur, ça peut lever quand tu vas me faire la nuit, c'est pas possible, la nuit, tu as 10 heures. Mais absolument pas, tu connais des heures, 10 heures. Mais là, absolument pas. C'est ça, et ça c'est vraiment sur vraie voix. Et ça c'est une belle rencontre. Mais bien sûr, elle ne peut pas retrouver ça d'un milieu plus que son adjoint. Moi souvent je dis aux parents, mais mettez-vous dans la situation relâchage des canalites, etc. Donc la première semaine vous êtes reposé, et la deuxième semaine vous oblige à vous coucher à 10h du soir et à vous lever à 8h du matin. Vous ne couchez pas après et vous ne levez pas avant. Et là, ils me disent, et qui vous faites quoi? Après ils disent, typiquement le petit dormeur, vraiment le gros dormeur, c'est le petit dormeur, ils disent, qu'est-ce que je fais, au lit de 8h, de 10h, de 10h, à 10h, de 10h, après m'être brûlé. Donc elle, c'est vraiment un jour, il faut réduire son temps au lit à ce qu'elle a effectivement dormi, mais pas du même temps. Et si vous parlez, après faire deux semaines de son rythme, et si elle est toujours fatiguée, ou que le soir, elle ne va pas être fatiguée, là, on peut toujours allonger un petit peu. Alors, après, dans la deuxième temps, on peut
allonger.
Et puis, ils disent, exactement. Mais ils ont senti. Et ce qui se passe, c'est que dans ces trains de sommeil, voilà, ces enfants-là, c'est ces fameux trains de sommeil, entre chaque cycle d'une heure et demie, deux heures, eux, ils ont tout le monde un micro-réveil, parce que beaucoup pour en genre dangereux d'être inconscient pendant 7, 8, 9 heures d'affilée. Hein. On vient même de gens qui ont été nomades, qui ont dormi dehors, etc., des ancêtres. Donc évidemment, on ne peut pas être inconscient pendant 7, 8 heures d'affilée, ça c'est absolument trop dangereux. Donc ce qu'on a, c'est qu'en chaque train de sommeil, au cycle de sommeil, on a un micro-réveil où on vérifie est-ce que tout est OK, est-ce que tout est comme c'était avant. Et si on a une pression de sommeil suffisante, on se rendort tout de suite. Si par contre on n'a pas une très bonne sommeil suffisant parce qu'on est en petit dormeur et qu'en fait on a déjà dormi pas certainement jusqu'à maintenant, là on va jouer comme une pression dormée et on doit reconstruire une pression de sommeil, donc ça fait travailler une deux heures et on sait pas. Et puis après c'est hyper difficile parce qu'elle a été très évidente, parce qu'elle a reconstruit cette pression de sommeil et au moment où on va se réveiller, c'est vraiment. Donc elle vaut mieux concentrer ce sommeil sur peu de temps à travailler en plus.
Si un enfant doit l'entrer, il a trouvé la soirée le matin.
Oui.
Ça veut dire qu'il va quand même se préparer une fois.
Non, l'ensemble problème, c'est que quand même, génétiquement, il y a des couches tôt et des couches tard. Hein? Alors, la plupart des gens sont des hauts milieux. J'ai un peu simplifié avant. La plupart des gens sont des hauts milieux, puis après, il y en a un peu chrono-rigides. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tellement s'adapter et qu'ils, biologiquement, sont plutôt des couches tard et des couches tôt. Et même chez les petits, ça existe. Donc, il y a d'entre vous, après, je pourrais aussi vous demander qui est couche tôt ou couche tard. Et il y a vraiment une certaine partie de gens qui, moi, j'adore demander aux gens, vous couchez à quelle heure. Puis ça les fait toujours beaucoup rire, parce que chaque fois ils me disent, comme je le répète, ils voient que les petits enfants, ils disent sur la mine. Et je dis, oui, je vous dis à quelle heure je vous couche. Et je disais, 9h30, il n'y a pas de sur la mine. Voilà, donc il y a des gens, moi je me couche tôt, très tôt. Donc moi j'aime plus me coucher tôt et me lever tôt. Et il y a des gens qui, pour eux, c'est de toute façon difficile de se lever le matin, même s'ils ont finalement assez de sommeil. Donc ces gens-là, il faut vraiment essayer, comme je disais, beaucoup de lumière le matin, de l'activité le matin. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas assez dormi. Des fois, c'est juste que c'est difficile de sortir de ce moment de sommeil. Et puis, il y a des enfants où c'est comme ça, et qui sont dans des couches tard, l'état des extrêmes, ils sont embêtés dans notre société. Jusqu'à ce qu'ils trouvent un métier où après, ils viennent, je ne sais pas, ouvrir en boîte de nuit ou un autre métier extraordinaire qu'on peut faire comme un ami. Mais notre société est faite un petit peu pour les moyens. C'est la même chose pour le pays, pour tout. Hein. Notre société est servie à adapter à des plans moyens. Puis ceux qui sont un peu dans les extrêmes, ils sont un peu typiques, les couches. Les couches au retour, ceux qui sont tout à fait biologiques.
Elle peut interrompre par exemple un enfant, un petit enfant, et se dire par exemple si tous les matins il se réveille à 7h, et que là il me lève et qu'il se rendorme par exemple. Moi ça l'est arrivé avec mon fils.
J'ai pas compris.
Il me confond sur lui du matin avec 7h, mais il était hyper calme, on l'entendait même pas.
Ouais.
Et je sais, on a réalisé pendant une heure au lit, vraiment. Donc j'ai eu des fois à dire,
Mais
ma question c'est, est-ce que finalement après sur la suite, quand il va grandir, est-ce qu'on va pas influencer le jeu, est-ce qu'il va devenir un lecteur, parce que la suite, il aurait pris plus de rester longtemps.
Ça sent très génétiquement ancré, cette histoire de lecteur, je sais pas, ça c'est pas lié à...
Parce que maintenant il a 5 ans et demi, on a beaucoup, enfin on a énormément fait un levier, mais disons on voit qu'il aimerait bien rester et tout. Des fois je viens me rappeler, je crois qu'il a trop dormi quand il était petit, il a pris ce rythme de rester.
Mais pour vous plutôt c'est l'inverse, vous vous êtes adapté à son rythme qui était plutôt d'être tranquille matin, de pas trop aimer l'accumulation, c'est peut-être parce que c'était super. Ce que vous lui avez donné qui est génial, c'est une autonomie, c'est que lui il a une expérience d'être au lit, s'endormir, et c'était chouette, et qu'il pouvait être autonome. Donc ça c'est quelque chose que peu d'enfants ont, et souvent on gagne un peu si les enfants, justement, de difficultés de sommeil, il y a déjà moins de difficultés s'ils sont autonomes. Ben, souvent ce qui est difficile, c'est quand ils sont tellement dépendants de ces moments. Donc il est plus si pire, avec une expérience, je peux être très bien dans mon lit, et c'est sympa, et je vais appeler personne, et puis c'est une expérience. Parce que ce qui va se passer, c'est que ce que je disais, hein, avec ces micro-réveils, alors après, j'ai de nouveau, je fais des généralités, après il y a des parents qui me racontent, ils s'endorment, même quand on comme ça, après ils me posent, parce qu'elle n'est pas la nuit, elle va changer rien. Mais dans beaucoup de situations, vous devrez voir ce que les parents font comme mais dans beaucoup de situations, ce qui se fait, c'est qu'une fois l'enfant a endormi, parce que et puis il va faire son premier cycle de sommeil, puis après il va se réveiller normal, Et puis, il va checker est-ce que tout fait que quand je suis endormie. Et souvent, les parents, en fait, ils n'ont pas l'idée de faire ça toute la nuit. Et ça, ça marche rarement. Parce que, en fait, c'est juste ça. Donc, moi, je trouve que l'enfant, il ne voit rien du tout. Si sa situation de sommeil nocturne, c'est d'être avec le papa, maman dans le lit, ou avec sa fratrie, ou je ne sais pas quoi, soit il peut s'endormir avec papa, maman, pour lui, ça ne va pas être un problème. Par contre, d'attendre de lui d'être autonome du milieu de la nuit, alors que vous lui avez battu, il ne sait pas mettre le soir, ça, vous lui demandez un peu trop. Juste quelque chose que c'est ma faire. Puis d'être autonome au milieu de la nuit quand tout est noir et qu'on entend pas un bruit, c'est encore plus difficile que le soir. C'est encore le soir, on va être autonome, on entend pas papa, maman dans la chambre à côté ou je sais pas au salon. Du coup, c'est bien rassurant. Donc, souvent, on leur demande beaucoup plus que ce qu'ils peuvent pour la nuit. Quand on fait ces rituels et finalement on les sent, ça crée un pas sur le fait d'avoir des grands.
Puis après, c'est comme nous, il y a des femmes qui sont toutes seules ou des femmes qui.
Alors, il y a. Ça finit presque toujours par arriver. Alors, j'ai une autre méthode. Ma cousine est vétérinaire, donc mon nom de famille nous est extrêmement bien dit, parce que je suis très étonnée parce que je me fais la ligne de mon nom est dit pour elle, c'est vétérinaire. Mon grand-père est vétérinaire. Et ma cousine, quand on a même âge, elle vient de Saigon, de Ho Chi Minh, et puis moi, à 18 ans, j'ai quitté la maison, donc je suis seule, et puis elle est venue vivre chez mes parents parce qu'elle est vite informée. Et le premier soir, elle est venue chez mon enfant, le soir, elle a dit qu'elle a dit que je peux dormir avec elle. Au Vietnam, jusqu'à peu, mais encore maintenant, dans la plupart des familles, on ne dort jamais seul. On passe de la lit du lit des parents au lit des grands-parents, souvent, et le gros moment de la fratrie, jamais sa vie dans le sol, évidemment ça va super bien. Ça évidemment c'est l'exception parce qu'en Suisse, on a souvent l'espace, au moins pour que les enfants dorment. Au Vietnam, c'est quand même une chambre d'espace. Il y a une chambre de parents, enfin une autre chambre, il y a les grands-parents, puis là on va dire. Donc en Suisse, j'ai pas pris ces slides, enfin, c'était pas ça le sujet, mais il y a pas mal d'études qui montrent qu'en Suisse, le pic de quand les enfants dorment avec leurs parents, c'est à 4 ans. Ça c'est vraiment pic. Ça, c'est les mêmes études longitudinales de Zurich, ça donne des années 780. Ce qui est particulier dans ces années-là, c'est des enfants qui sont très peu arrêtés. Ça s'appelle grand moment du bébé en couple. Et que le cododo, c'était totalement pas la mode. Du tout, Zurich, un excellent, vraiment pas. C'était vraiment bébé en couple, c'était bien tout seul, c'était bien double. Et puis, donc oui. Exactement, mais en tout cas, c'était clairement pas un mot. Et malgré ça, alors ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les bébés dorment pas du tout avec leurs parents. Ce qui est plus du tout le cas maintenant, en tout cas, ma façon de faire, je beaucoup de bébés dorment avec leurs parents. Ce qui, à l'époque, dans ces graphiques, n'était pas du tout le cas. Donc là, on voit quelle est l'idée des parents. L'idée des parents, c'est que l'enfant ne doit pas dormir avec ses parents. Le bébé ne doit pas dormir avec ses parents. C'est ça leur idée. Donc bébé, on voit qu'ils sont séparés. Et puis petit à petit, le nombre d'enfants qui viennent dans le lit d'un parent augmente jusqu'à 4. Il y a une grande augmentation à 2 ans. Je dis toujours plus pourquoi. Parce qu'on a enlevé des garots et tout ça marchait. Ça augmente jusqu'à 4 ans et après, spontanément, ça redescend. Puis après, il y a une petite traînée. Donc, ça, c'est la courbe naturelle du taux dodo. Quand les enfants, quand il y a de l'espace pour qu'ils ne restent pas avec leurs parents, quand quand même les parents ils disent allez. Donc, quelque part, spontanément, ça se fait, sauf dans des situations vraiment problématiques. Après, il y a parfois des situations vraiment problématiques. Il y a d'autres gens, mais ça, c'est dans une situation pas problématique où l'enfant, il y a un couple, il y a un enfant, mais pas encore. Mais spontanément, il ne vient souvent pas du tout à ce qu'il faut les parents. Parce que quand on pense depuis qu'il y a 4 ans, d'après, ça continue, 5, 6, souvent, c'est vraiment des gens qui ont vraiment un petit peu. Donc, moi, ce que je propose, il y a plusieurs méthodes. Chez les tout petits, il y a les fameuses méthodes de laisser pleurer, tout ça, donc ça marche. Ça marche. En 3 nuits, c'est réglé, mais alors, moi, je serais pas capable de le faire, du coup, c'est hyper dur pour moi de dire à mes patients, mais je commence sur le ça marche hyper bien. Et si il y a des parents qui me disent, ah oui, moi, je suis prêt, je dis, ok. Mais moi, il m'appelle après à l'excuse de rien, parce que pour moi, c'est plus. Enfin, je sais ce que ça veut dire pour la mère, hein, sa pension de monde sur la colonne du monde. Pour la mère, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, il va vraiment se surmonter. Pour... Donc ça marche. On peut aussi faire quelque chose, on va toutes les 5 minutes, il y a plein de différents concepts. Moi, ce que je propose aussi pour les plus grands, c'est quelque chose de plus progressif. On dit, ok, ben pendant 3-4 minutes, est-ce que votre enfant, vous pensez qu'il est capable, pour qu'il soit juste un peu plus autonome. Ne faites pas plus que ce que vous êtes capable de supporter et qu'il est capable de supporter. Du typique, alors celle-là, j'ai eu un papa sud-américain, français, à la musique. Donc on a dit, ok, 3-4 nuits, il ne danse plus, mais il y a encore un petit peu. Après 3-4 nuits, il enlève la musique. Après 3-4 nuits, il le pose, et puis il met les mains. Et puis souvent, le début, c'est un peu long, parce qu'il faut vraiment continuer à tenir bon un moment, et après, ça va vite. Mais l'important, c'est de faire quelque chose où on va tenir bon, mais quoi qu'il arrive. Et on ne va pas reculer, on ne va pas se remettre à passer, même si tu as une surprise. Parce qu'on est convaincu que ça, notre enfant, il peut le faire. Il peut supporter ça va venir dans les places en violence. Et puis celle-ci-là, on est convaincu, ben, la tête, elle est prête. Il a dit, ça, je suis sûre que je ne suis pas en train de lui faire un traumatisme rêvé, je veux le faire. Et du coup, ben, c'est ça, après, on se dit, ah là là. Et si on est en train de se dire, on est en train de lui faire un traumatisme rêvé, on ne tient pas, on retourne, et ça, ça ne va pas. Parce que là, on dit le message à notre enfant, ta raison violée, c'est terrible, finalement, viens, et puis tu sors après, j'ai plus de temps. Donc là, on a vraiment un message. Non, on peut vraiment proposer quelque chose, des 10 sensations proposées. 4 ans, c'est compliqué parce qu'ils sont autonomes, et là, c'est, il s'agit vraiment d'autorité. Et je dis toujours aux parents, il faut réfléchir, si vraiment c'est important pour vous, c'est quelque chose que vous devez pouvoir imposer à votre enfant, il faut vraiment que ce soit important pour vous. Et après, on essaie de trouver d'autres choses dans la journée qui vont réussir à imposer votre enfant. Alors, enfant, bah, c'est peut-être vraiment important pour vous. Ils se rendent compte que oui, ils sont capables d'imposer si c'est vraiment important pour vous. Si c'est pas tout à fait important, c'est beaucoup plus dur. Là, l'enfant, il sent beaucoup plus. Alors, en fait, parce que lui, ce qu'il a envie, c'est de dormir là, tout près de papa maman, c'est un petit mammifère, et qu'il fait comme ça, hein, donc il dormir comme ça. Il y a des options entre deux, on a un petit matelas par terre, il ne réveille pas les parents, et il n'est pas dans le lit conjugal, et puis il va dormir, il y a plein d'options, il faut pouvoir inventer.
Mais tu veux dire, un enfant, par exemple, de 3 ans, il se lève la nuit à 3h30 du matin, il va lui dire, on va aller avec les parents en train, mais qu'il va commencer à bouillir, à chanter des chansons pendant 1 heure, 2 heures.
C'est ça m'est arrivé une fois, j'ai vu ça une fois en consultation.
Ah, c'est pas pour moi, c'est ma
voisine qui est dans le monde. J'ai vu une consultation comme ça, ouais. Et c'était excellent, j'étais en terre en pédiatrie, première année, aux urgences, à l'hôpital d'enfance, à Lausanne, et une maman qui me dit exactement ça. Je vais les enchaîner. Je me dis, qu'est-ce que je dis à cette enfant? Je me dis, il faut qu'elle fasse preuve parce que les autorités. Donc, pour cet enfant-là, il était exactement dans la situation que j'ai montrée tout à l'heure, c'est qu'il est trop
c'est parfois, hein, parce que stopper les pieds complètement.
Je ne sais pas ce qu'il faut stopper, mais il faut trouver un rythme qui correspond à son temps de sommeil.
Peut-être que c'est qui le meuf qui va.
Alors, je ne sais pas si c'est les siestes, peut-être qu'il y a 20 siestes, on peut raccourcir les siestes, coucher plus tard. Des fois, on peut prendre par tous les bouts, coucher un peu plus tard, lever un peu plus tôt, mettre un peu la sieste. Et ça.
Merci de quelqu'un, toi, il ne va pas forcément aller chez les parents, il est quelque chose d'un
ah, bah ça, si ça dérange personne, tu l'entends en forme, peut-être qu'on a rien.
Non, ouais,
mais
il dit.
Oui,
on est avec tout le monde.
Ouais, c'est ce que.
C'est sûr, il ne faut jamais changer une situation qui va bien, mais c'est.
Les problèmes de sommeil des petits, maintenant je ne parle pas des ados, hein, qui eux ne peuvent pas même s'épuiser avec le décalage de mal, mais les petits, ça dérange essentiellement les parents. En fait.
Ouais, c'est sûr que c'est plus la
femme. Les enfants, ils trouvent toujours un moyen de récupérer les petits qui sont dans leur boîte. Et...
Est-ce que ça serait bien qu'il progressivement?
Ouais, peut-être. J'ai discuté avec lui, si ça d'accord qu'il mieux progressivement, mais plus dans le couloir, moi dans la chambre, juste pour ce qui est moins direct. Moi, c'est vraiment discuté avec lui. Est-ce qu'on pourrait supporter
Bien fait, merci beaucoup.